Il est 18h sur BFM TV, bienvenue dans le Club BFM, votre club où l'actualité est en débat jusqu'à 20h. Au sommaire du club ce soir, le 8, on fait partir Bayrou, le 10, c'est au tour de Macron. Déclaration à l'instant signée par Jean-Luc Mélenchon. Alors à quoi s'attendre mercredi prochain? À des grèves, à des blocages partout en France? Le mouvement s'est-il gauchisé comme le disait hier le ministre de l'Intérieur? On va en débattre avec nos éditorialistes et deux observateurs de la vie politique. Pascal Perrineau et Nathalie Chuc qui vont nous rejoindre. Donald Trump est-il l'idiot utile des dictateurs? À l'instant, ce matin, il indique le lieu du prochain G20, ça sera dans son golf à Miami. Il aimerait bien y voir Vladimir Poutine et Xi Jinping. On va faire le portrait de ces nouveaux hommes forts avec Bernard-Henri Lévy, qui sera l'invité du Club BFM. Et puis, en ces temps où on appelle les Français à se serrer la ceinture, faut-il taxer plus les plus riches? On va en débattre, ça sera la dispute du club autour d'un salaire, celui de Luca De Meo, qui va toucher 20 millions par an. On va se demander si la France fait trop de cadeaux aux patrons. Mais tout de suite, à 18h, c'est l'heure du rappel des titres avec vous, Pauline. Bonsoir, Pauline.
Bonsoir. Voilà, ça ne vous aura pas échappé, c'est bientôt le vote de confiance. Dans deux jours, ce sera lundi, la rentrée politique qui se poursuit, ainsi que les différentes prises de parole. Vous le disiez, Jean-Luc Mélenchon, qui était à la braderie de Lille aujourd'hui, l'a notamment appelé au blocage. Nous bloquerons tout. C'est ce qu'il a dit. Et puis de leur côté, les Républicains ont également fait leur rentrée à Port-Marly, c'est dans les Yvelines, en région parisienne. Pour Laurent Wauquiez, vous allez voir, tout est une question de système.
Et c'est ce système que nous devons faire sauter. C'est cela la cause, c'est cela le vrai combat. Tout le reste ne pèsera rien. Parce que si nous ne nous attaquons pas à ça, on peut gagner toutes les élections du monde, on peut participer à tous les gouvernements du monde, on peut faire tous les beaux discours en disant ici, surtout, jamais de compromission, jamais de la vie. Sauf que le système nous condamne à l'impuissance.
Un policier est en cours d'identification par la justice parce qu'il a mis une gifle à un jeune homme en Seine-Saint-Denis à la fin du mois d'août, sans raison apparente sur la vidéo. Ses équipiers sont également concernés. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique. Et puis en bref, la direction de France Inter a annoncé hier soir avoir suspendu à titre conservatoire le journaliste Thomas Legrand, une décision qui fait suite à la diffusion d'une vidéo dans laquelle il tiendrait des propos à l'encontre de Rachida Dati dans le cadre des municipales à Paris. L'actualité aujourd'hui, c'est également Israël qui continue de bombarder sans relâche Gaza. Une nouvelle frappe qui a touché un immeuble du sud-ouest du pays, de la bande de Gaza, Tsahal, qui affirme qu'il était utilisé par le Hamas. Même scénario finalement qu'hier, puisqu'un autre immeuble a également été visé. Le ministre de la Défense israélien a simplement écrit sur son compte X « Nous continuons ». Benjamin Netanyahou qui a annoncé, je vous le rappelle, il y a quelques semaines, vouloir prendre le contrôle total de la ville de Gaza. Vous ne pourrez bientôt plus acheter de sachets de nicotine. Interdiction à la vente, mais également à la production en France à partir du mois de mars prochain. C'est aussi appelé des pouches, ces petits sachets qui sont à glisser en fait dans la bouche. Ils sont particulièrement consommés par les ados. La ministre de la Santé affirme que cette mesure confirme l'engagement du gouvernement de prévenir le tabagisme et réduire les risques liés aux addictions. Et puis pour terminer, Paola, le coup dur pour les Bleus, cette fois Ousmane Dembélé qui sera absent au moins 6 semaines. Il s'est blessé hier soir à la cuisse droite pendant le match Ukraine-France. C'est dans le cadre des qualifs pour la Coupe du Monde 2026. Et puis, encore une mauvaise nouvelle, navré, c'est au tour de Désiré Doué qui sera également absent, lui, pour 3 à 4 semaines. Voilà, je reviens peut-être avec de bonnes nouvelles bientôt.
Bon, alors à tout à l'heure, Pauline. Et on ouvre ce club ce soir avec deux brillants esprits. Pascal Bruckner, bonjour, philosophe.
Bonjour,
vous allez être l'ambassadeur des boomers ce soir, puisque vous allez passer un petit coup de gueule tout à l'heure. Vous êtes en une de la revue des Deux Mondes, les ravages du déclinisme et du catastrophisme.
Oui,
on aura l'occasion d'y revenir.
Aujourd'hui.
Olivier Babou, merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Vous allez vous intéresser à ce geste qu'on fait souvent, scroller, qui ferait perdre des points à la France, des points de PIB.
Souvent, trop souvent.
Trop souvent. Et avec nous également Axel Tessandier, spécialisé dans la communication et dans le numérique, et Léopold Audebert du service politique
Bonsoir.
De BFM. On va revenir évidemment sur les propos de Jean-Luc Mélenchon qui appelle à destituer Emmanuel Macron. On peut le dire, restez avec nous. Le Club BFM revient dans une petite minute. Bonsoir, bienvenue sur BFM TV. Merci de nous rejoindre pour le club BFM. Nous sommes avec Pascal Bruckner, Olivier Babot, Axel Tessandier et Léopold Audebert. Et on ouvre ce club avec une question. À quoi ressemblera la France mercredi prochain? C'est une date qui fait peur à tout le monde. Ce n'est pas le 8 septembre, hein, le jour du vote de confiance. Ça, on a l'impression que c'est un peu cuit, hein, Léopold. On aura l'occasion d'y revenir. Mais c'est le 10 septembre qui fait peur à la classe politique. Que va-t-il se passer? Il y a quelques instants, Jean-Luc Mélenchon a appelé à descendre dans la rue. Nous sommes en direct depuis Lille avec notre journaliste Nicolas Laurent. Vous avez suivi le meeting du leader de la France insoumise et il a tiré à boulets rouges sur l'ensemble de la classe politique.
D'abord sur le couple exécutif, Jean-Luc Mélenchon qui s'en est pris pendant 50 minutes passé sur scène, d'abord à François Bayrou et Emmanuel Macron, qualifié de pouvoir illégitime, je cite le chef des Insoumis, qui a appelé, comme il le fait depuis déjà plusieurs semaines, à la démission du chef de l'État. Mais il s'en est pris aussi et surtout, j'ai envie de dire, à ses anciens alliés à gauche, à commencer par Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qualifié de carriériste, prêt à vendre le programme du NFP pour des postes de ministre. Écoutez Jean-Luc Mélenchon.
Ceux qui veulent bien, ceux qui ont dit, comme l'a dit Olivier Faure, je suis à la disposition du chef de l'État. Je suis à la disposition du chef de l'État pour discuter des conditions dans lesquelles la gauche pourrait occuper les places gouvernementales qui sont aujourd'hui occupées par la majorité relative de François Bayrou.
Des propos très durs et une rancœur partagée par beaucoup de militants avec qui on a échangé et croisé des militants insoumis. Beaucoup de rancœur envers donc le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Jean-Luc Mélenchon qui a aussi appelé à descendre dans la rue mercredi prochain. On va faire partir François Bayrou le 8. Vous ferez partie, vous les Français, Emmanuel Macron le 10.
Merci Nicolas Laurent en direct de Lille. Et effectivement, on va écouter les propos de Jean-Luc Mélenchon qui a un calendrier très serré pour la semaine prochaine.
Le 8, nous pensons, quant à nous, que ce sera le jour où nous ferons partir, grâce à la mobilisation populaire qui s'annonce pour le 10, le Premier ministre M. Bayrou. Mais le 10, nous bloquons tout pour faire partir M. Macron lui-même, car c'est lui qui est le responsable de la crise.
Olivier Babot, on voit que là, Jean-Luc Mélenchon emploie les bons mots, c'est-à-dire qu'il s'agit de bloquer la France mercredi prochain, alors même que sûrement on n'aura plus de gouvernement. Vous comprenez le sens de ce blocage ?
Oui, alors il fait de la chute du gouvernement du 8 une sorte de conséquence d'une mobilisation qui s'attendait, qu'on espérait très forte. C'est probablement pas le cas. Je pense que les calculs de François Bayrou ont été différents. Cette histoire du 10 est intéressante, hein, parce qu'elle a commencé sur une boucle Telegram. Et à l'origine, disons que ce mouvement, c'était plus un mouvement qui venait des fameux Nicolas qui paie, si vous voulez. C'est-à-dire plutôt un mouvement anti-dépenses publiques, anti-impôts, et puis qui évidemment s'est
récupéré. On a dit aussi récupéré à l'extrême droite.
Et voilà, et puis bon, il a été probablement récupéré. Miser beaucoup sur le 10, évidemment, le 10 au départ, c'était une manifestation anti-budget, contre un budget qui était vu comme étant inéquitable. Maintenant, évidemment, ça ne peut plus être une manifestation. Quelque part, elle a été vidée de son sens. Et donc, il faut essayer de lui réinvestir, de lui redonner un poids. Et maintenant, bah, évidemment, c'est le président de la République qui est visé, mais évidemment, sans imaginer que le président démissionnera. C'est quand même un coup de poker, parce que si la mobilisation n'est pas très forte, si vous avez annoncé que vous alliez bloquer la France et que rien n'est bloqué, et que c'est très doux, parce que dernièrement, il y a quand même eu des rentrées sociales qui étaient quand même beaucoup moins chaudes qu'est prévu, eh ben, ça pourrait paradoxalement redonner un petit peu de force au camp présidentiel.
Axel Tessandier, vous comprenez néanmoins la colère des Français, ceux qui veulent descendre dans la rue, qui ne sont pas contents, qui trouvent qu'il n'y a pas assez de justice fiscale, par exemple?
Oui, enfin, la colère des Français, on la comprend tous. Je crois qu'on est beaucoup à pas exactement comprendre les revendications exactes en fait, du 10 septembre, parce qu'il a commencé, comme vous disiez, à l'extrême droite. Même des mouvements un peu complotistes, anti-vax, sur des boucles Telegram. Ensuite, il est passé, ce que disent les renseignements aujourd'hui, c'est qu'on est clairement dans la gauche radicale, l'extrême gauche. Donc, qu'est-ce qui lie, en fait, ces différentes composantes politiques? Un ras-le-bol, une colère. bloquer quoi, en fait, le 10 septembre, puisqu'il n'y a plus de gouvernement. Donc, c'est vraiment l'expression un peu nihiliste d'un ras-le-bol. On la comprend, évidemment, dans la situation.
Ça, c'est inquiétant, parce que ça veut dire que la colère n'est pas canalisée, si je puis dire, Pascal Bruckner. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une colère qui descend sans être guidée par un mouvement particulier, un syndicat, et potentiellement un mouvement protéiforme.
Oui, c'est pour ça que les syndicats ont reporté leur grève le 18, parce qu'ils n'ont pas confiance dans les agitateurs du 10. Mais alors Mélenchon, il a raison sur les carriéristes du PS. Il a tout à fait raison. On a vu que Olivier Faure s'est précipité. Coucou, je suis là, je vais prendre la place. Mais... poussez-vous que je m'y mette. Bardella aussi, de l'autre côté, hein, parce que ils ont les mêmes ambitions. Et alors, Mélenchon, c'est un plébiscite, le 10, pour lui. Si ça rate, ça veut dire qu'en fait, son parti a une influence mineure. Moi, je parie sur l'échec. Bon, ils vont tout casser, parce que c'est une habitude française, on casse tout, on va brûler des abribus, des banques, les Black Blocs vont s'y mêler, parce qu'évidemment, ils se préparent. Et les enquêtes sur les manifestants du 10 ont montré, il y a eu notamment une longue enquête dans Le Monde, que c'est des gens diplômés, plutôt les classes moyennes, plutôt éduquées, et qui en fait font du 10 un prétexte, parce que je crois que c'est Jérôme Fourquet qui disait à juste titre que ça rappelait plus Nuit Debout que les Gilets jaunes.
Oui.
Les Gilets jaunes étaient un mouvement populaire, le 10 ce sera un mouvement des, comment dire, de ces élites frustrées, parce qu'il y a trop d'élites en France qui veulent prendre la parole et qui vont exprimer leur rage contre le système capitaliste en général.
Et pourtant, Léopold, quand même, le ministre de l'Intérieur, a fait passer cette note au préfet où il dit, attention, il pourrait y avoir des... Quel est le mot déjà? Des actions surprenantes,
spectaculaires.
Spectaculaires. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir, par exemple, je ne sais pas, l'assaut d'un grand bâtiment comme l'Élysée, comme Matignon, comme un ministère. C'est ça qui pourrait se passer?
En tout cas, oui, ces bâtiments emblématiques sont clairement potentiellement concernés. Et c'est vrai que bon, on a l'habitude de lire ces notes qui fuitent des services de renseignement. Également, ces notes au préfet envoyées directement par le ministre de l'Intérieur, ça a été le cas là. Il parle de vraiment d'interpeller directement les auteurs de ces faits, qui soient déférés devant la justice de manière très rapide. Bruno Retailleau, pourquoi il fait ça? Parce que nous, quand on interroge aussi l'entourage de différents ministres depuis plusieurs semaines maintenant, on entend, c'est vrai, cette petite musique, ce spectre, ce fantôme des Gilets jaunes qui revient et une peur bleue dans le contexte actuel politique, on en parle assez sur BFM TV pour comprendre ce qui va se passer lundi, eh bien d'une accumulation de facteurs qui nous fasse arriver dans une situation potentiellement incontrôlable. Et puis c'est une manière aussi politiquement pour Bruno Retailleau, une manière de montrer qu'il a le contrôle, en tout cas qu'il a peut-être le contrôle de la situation dans une période très troublée au sein des Républicains.
Alors toute la question est de savoir si, quand Bruno Retailleau dit ça, s'il ne fait pas de la politique, non. Léopold, puisqu'il dit le mouvement s'est gauchisé. On est passé de bloquons tout à cassons tout. Alors on va recevoir Benjamin Lucas, député écologiste des Yvelines. Merci d'être avec nous. Venez vous asseoir, je vous en prie, pour savoir effectivement, est-ce que vous appelez, on vient d'entendre Jean-Luc Mélenchon qui appelait clairement à descendre dans la rue, à bloquer le pays le 10 septembre. Est-ce que vous aussi vous appelez, est-ce que les écologistes appellent à descendre dans la rue?
Oui, nous avons dit que nous participerions partout où nous pourrions à des actions qui et à des mobilisations qui s'inscriraient dans le cadre des mots d'ordre qui sont les nôtres.
Participer à des actions ou bloquer le pays?
Mais moi, je respecte l'autonomie des mouvements sociaux, des mouvements citoyens. Je suis parlementaire, responsable politique. J'ai pas vocation à commander un mouvement social, ni même vraiment à le commenter avant qu'il ait eu lieu. Ce que je sais, c'est que je crois qu'il y a une colère. Enfin, je suis certain qu'il y a une colère très forte dans le pays. J'étais toute la journée dans ma circonscription auprès des associations. Ce sont aujourd'hui les forums des associations. On nous parle dans les associations de solidarité de dizaines de personnes supplémentaires par commune qui viennent pour de l'aide alimentaire, pour des difficultés scolaires, etc., etc. Il y a une colère, il y a des injustices et le sentiment que la situation politique telle qu'elle est aujourd'hui ne répond pas à ces colères et à ces angoisses. Et donc, comme dans l'histoire de notre pays, il y en a souvent, il y a des mobilisations sociales. Et je crois que c'est une bonne chose aussi. Il n'y a rien de pire pour une démocratie que la résignation des citoyens. Je crois que le fait que certaines et certains fassent irruption dans le débat public est une bonne chose.
Alors, ce qui est cocasse, c'est que le mot d'ordre, c'est bloquons tout, alors qu'on a l'impression précisément que le problème de la France aujourd'hui, c'est que tout est déjà bloqué. et qu'on aurait plutôt envie d'une manifestation qui dirait débloquons tout. Alors, quel est l'objectif? Est-ce qu'il faut des législatives? Est-ce qu'il faut, à votre avis, des présidentielles? Est-ce qu'il faut autre chose?
Écoutez, d'abord, il y a un vote qui intervient lundi. il faut d'abord que ce gouvernement s'en aille. C'est chose acquise maintenant.
Admettons.
Sauf en versant une situation auquel j'en conviens, il est difficile de croire. Ensuite, il appartient au président de la République de enfin tirer les conséquences de la dissolution qu'il a lui-même convoquée, qu'il a lui-même précipitée en juin dernier, en respectant le résultat des urnes et en permettant qu'il y ait une réelle cohabitation, c'est-à-dire pas des ajustements avec le bilan d'Emmanuel Macron, mais une vraie rupture avec la politique qui est menée depuis 8 ans et qui est contestée par les Français. Je lisais encore un sondage hier, je crois, où il reste 15% des gens qui soutiennent le président de la République. On n'a jamais vu ça. Même dans les moments de grande impopularité d'un certain nombre de présidents de la République, vous aviez une base politique, électorale, qui soutenait le camp.
Et
14 pour François Bayrou, mais François Bayrou appartient déjà au passé, de toute façon.
Donc vous aimeriez bien aller plus loin. Donc vous dites, il faudrait qu'Emmanuel Macron, à terme, fasse une dissolution, voire même peut-être s'en aille, c'est ça que vous dites ?
Mais moi, je ne fais pas de la fiction. Je ne suis pas le président de la République, ça ne nous aura pas échappé. Permis de faire une entrée triomphale sur votre plateau. C'est le président de la République qui peut en décider. Ce que je sais, c'est que s'il veut s'épargner cela, il ne peut pas faire autrement que d'accepter l'idée qu'il ne peut plus être le cœur du pouvoir dans ce pays, le cœur de décision, comme dans une cohabitation. Il est président de la République, il a été élu, c'est à lui qu'il convient de décider de partir s'il doit partir. Ou alors, s'il ne respecte pas et s'il nomme à nouveau un gouvernement pour perpétuer sa politique, il y aura peut-être d'autres étapes parlementaires. Mais moi, je veux croire, parce que je suis un garçon optimiste, que le 8 au soir, Emmanuel Macron comprendra qu'il n'a plus d'autre alternative que de permettre à la gauche de gouverner et pas dans une forme de coalition avec son bloc politique qui a été rejeté par les Français.
Allez-y, Olivier.
Alors, nous, on a tous fait un peu nos additions. Vous parlez d'une coalition qui ferait une cohabitation. Alors, comment vous voyez cette majorité qui pourrait se dégager? Est-ce que le problème principal, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, c'est justement qu'elle ne se pourrait se faire que à condition d'une fracture assez forte entre une partie du NFP et la partie LFI, évidemment, et le PS? Que feraient les Verts, d'ailleurs, dans cette coalition? Est-ce qu'ils seraient dedans, dehors, de cette nouvelle majorité hypothétique?
Moi, je vais vous dire ce que je souhaite et pas commenter les propos des autres. J'ai pris connaissance tardivement. Moi, je pense que nous sommes dans une situation, on l'a bien vu, il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, pour personne. Il y a une majorité relative pour la gauche et les écologistes. Ça, c'est incontestable. L'arithmétique est ce qu'elle est. Il appartiendrait donc à ces formations politiques d'avoir le gouvernement, la responsabilité de gouverner, étant entendu qu'évidemment, comme il n'y a pas de majorité, chaque débat parlementaire, mais dans toutes les démocraties parlementaires dans le monde, en réalité, ça se passe comme ça. Sur chaque sujet, il y a des débats et des votes. Et puis, parfois, ce gouvernement gagnera des votes. C'est le cas, par exemple, sur la taxe Zucman pour imposer les hauts patrimoines. Nous avons déjà gagné le vote. Sur l'abrogation de la réforme des retraites, je pense que nous gagnerions ce vote. Et parfois, nous perdront. Et c'est ainsi, c'est la démocratie jusqu'à ce qu'une assemblée donne une autre majorité ou pas.
Alors, effectivement, là, on verra ce qui se passe pour le 8 au soir et le 9 au matin. Mais vu que le pays va largement être déstabilisé, c'est-à-dire qu'on va probablement ne plus avoir de gouvernement le 9, à quoi bon bloquer le pays le 10? Vous dites participer à des mouvements. Mais là, on entend de ce que nous disait Léopold, c'est la paralysie du pays, c'est-à-dire bloquer des gares, bloquer des autoroutes. À quoi ça sert? Je comprends pas bien, en fait.
On fait semblant dans ce pays d'être effrayé dès qu'il y a un mouvement social. Pardon, mais notre histoire républicaine est faite de mouvements sociaux qui ont accompagné des progrès démocratiques, des progrès sociaux. On a appelé notre coalition Nouveau Front Populaire. Il y en a donc eu un premier. Qu'est-ce qui s'est passé en 1936? Vous avez eu une conjonction de la victoire électorale de la gauche, elle-même d'ailleurs assez divisée, entre communistes et socialistes, il y avait quand même des nuances et des divergences beaucoup plus fortes que ce qu'on a aujourd'hui au sein de notre coalition. Et il y avait surtout un mouvement social qui a poussé à des grandes réformes dont on bénéficie encore aujourd'hui, comme les congés payés. C'est notre histoire républicaine, et donc je vois bien l'agitation faite par Monsieur Retailleau, bien relayé, en disant attention, le chaos, etc., etc. J'aimerais d'ailleurs qu'il se comporte comme ministre de l'Intérieur, là, plutôt qu'en porte-parole de sa famille politique.
Alors, vous parliez de porte-parole. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a un nouveau porte-parole de ce mouvement le 10 septembre. Vous allez voir, c'est un certain homme très connu des Français, à Salopette.
Alors, paraît que le 10 septembre, il y a la grande révolution nationale du larfeuille fermé. Ouais, les mecs veulent bloquer la France en restant au pieu, sans bosser, sans acheter, sans dépenser un rond.
Je crois que la grande différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps, les oiseaux s'arrêtent de voler.
Et puis moi, je vais vous dire, le président de la République est très gentil, parce qu'il nous laisse des libertés, et tout le monde sait très bien que s'il nous les retirait, personne ne dirait rien, hein. Et puis ceux qui croiraient que ça serait mieux avec les communistes, tout ça, ils ont qu'à essayer, ailleurs.
Coluche, ressuscité par l'intelligence artificielle comme nouvel ambassadeur de ce mouvement Bloquons tout. Est-ce que vous pensez que Coluche aurait pu dire ces mots? Est-ce qu'il aurait, lui, appelé à bloquer ce pays?
Oh, moi, je parle pas à la place de ceux qui ne sont plus là. Enfin, ce serait pas respectueux pour sa mémoire.
C'est plus prudent.
Non, mais pour sa mémoire.
Ça sous-entend que le mouvement est un petit peu populiste. Vous entendez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce mouvement bloquons tout, finalement, mais quand il est instrumentalisé comme ça par des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on se demande.
Pardon. Toujours. Maintenant, on a les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu. Mais enfin, dans tous les mouvements sociaux dans l'histoire de ce pays, vous avez toujours eu des minorités qui racontaient quelque chose qui n'était pas vraiment en phase avec ce à quoi aspirait la majorité de ceux qui participaient à ce mouvement. Vous avez toujours eu des débordements et je le regrette et je le déplore. Bon, sauf que maintenant, ça prend une ampleur considérable pour aussi, soit parce qu'il faut informer les gens de ce qui se passe et que ça, c'est visible, un débordement, c'est visible quand des choses sont cassées, mais aussi parce que les adversaires de ce mouvement l'instrumentalisent pour décrédibiliser ce mouvement. Les Gilets jaunes, on disait pareil au départ, c'est l'extrême droite, la revendication qu'il y a eu, c'est de la démocratie et de la justice sociale.
Oui, mais vous dites que Bruno Retailleau fait de la politique et qu'il essaye de faire peur, etc. Mais c'est surtout la note des renseignements français de la DGSI qui dit il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des sabotages, il peut y avoir des actions spectaculaires. C'est pas Bruno Retailleau qui dit ça, c'est les renseignements de notre pays, en fait.
Oui, et bien Monsieur Retailleau, au lieu d'aller courir les plateaux de télévision, le Premier ministre reprochait à tout le monde d'être parti en vacances. Monsieur Retailleau, lui, a le temps d'aller
pérorer
partout, qu'il assure
social.
La sécurité du pays et des Français. Je
oui,
lui
mais
en ferai
vous
pas
parlez,
le reproche.
Vous dites beaucoup mouvement social. Donc pour vous, un mouvement social aujourd'hui, il est forcément un peu populiste, un peu violent.
Mais vous n'avez pas encore vu ce que ça allait être le 10 septembre. Donc des choses, j'entends des inquiétudes. Moi, je commenterai les choses quand je les aurai vues, parce que j'ai entendu au moment des Gilets jaunes. Moi-même, vous savez, au début des Gilets jaunes, je comprenais pas ce qui se passait. On était face à un phénomène nouveau. On était beaucoup d'ailleurs à gauche à être un peu dépassés parce que nos cadres d'organisation militante, d'organisation démocratique étaient dépassés par tout ça. Bon, et on a vu quelque chose de
vous espérez
de nouveau,
un deuxième Gilet jaune,
de différent.
C'est ça que j'espérais pour le pays.
Je n'espère rien d'autre, madame, que celles et ceux qui veulent exprimer de la colère le fassent en bon ordre, le fassent pacifiquement et puissent être entendus de ceux qui, comme moi, sont aux responsabilités parlementaires ou gouvernementales. Parce qu'aujourd'hui, quand le président de la République convoque des élections, les Français disent au moment des élections européennes, on veut rompre avec la politique d'Emmanuel Macron. Qu'ils disent aux élections législatives, on veut rompre avec la politique d'Emmanuel Macron.
Oui.
Et qu'ils se retrouvent avec François Bayrou, Premier ministre, avec le maintien de la réforme des retraites, avec le maintien de la suppression de l'impôt de solidarité sur fortune, avec des salaires toujours aussi bas, des solidarités toujours aussi faibles. Comprenez qu'il y a des colères.
Non, mais c'est quand M. Bruckner dit Olivier Faure fait du carriérisme, ou quand Jean-Luc Mélenchon dit ils vont chercher des postes, vous devriez dire, mais non. En fait, c'est une question de responsabilité. Le pays est dans un état, nous ne sommes plus entendus. Parce que les Français, vous avez beau essayer de rattraper ce mouvement, mais vous allez faire partie du même dégagisme.
Je viens de vous dire, madame, que moi je souhaitais qu'il y ait, pour s'épargner une crise politique et démocratique qui dure, parce que personne ne veut cela. Moi, je vous ai dit que je souhaitais que dès le 8 au soir, le président de la République demande à la gauche et aux écologistes de composer un gouvernement qui soit fidèle aux engagements que nous avons pris devant les électeurs, parce que ça compte les élections.
On a entendu votre message.
Et qu'ensuite, on laisse le débat parlementaire s'exercer sans aller se compromettre.
Merci Benjamin Lucas d'avoir été notre invité ce soir. On va continuer à parler effectivement de politique. Regardez ce sondage qui montre bien effectivement cette envie de dégagisme dont vous parliez, Axel. Selon un sondage Odoxa, 64% des Français souhaitent un nouveau locataire pour l'Élysée. 64% des Français et 54% seulement réclament des nouvelles élections législatives. C'est vrai qu'il y a plus de Français qui veulent une démission d'Emmanuel Macron qu'une nouvelle dissolution. Ça, Pascal Bonnet, c'est quand même assez inquiétant.
Oui, parce que Macron a déçu. Ça, c'est incontestable, surtout depuis l'année dernière. Mais je pense que la colère des Français n'est pas due à des problèmes contingents, simplement le manque d'argent ou des fins de mois difficiles. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Et c'est ça le sentiment que donne Macron. Il est intelligent, il est brillant, mais il n'a pas su s'imposer comme personnalité. Et ce qui est plus inquiétant encore, c'est qu'à titre personnel, je ne vois pas qui pourrait le remplacer. Je cherche le candidat idéal qui pourrait le remplacer. Et pour l'instant, tout le monde...
Je vois Léopold qui dit « Ah, vous avez des petites idées quand même, Léopold. »
Aucun ne s'impose.
Et je suis d'accord.
Il va falloir trouver quelqu'un.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que ce qu'on entend, nous, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à parler avec les entourages des uns et des autres, des ministres, des chefs de parti, etc. En fait, il y a une phrase, Paola, qui revient tout le temps, c'est « Tout le monde est en train de devenir fou ». Cette phrase, elle revient de tous les côtés de l'échiquier du bord politique, parce qu'en fait, tout ce qui se passe en ce moment là, ces divisions, Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, également du côté des LR, cet affrontement entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, c'est guidé par quoi? Par une seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est l'élection présidentielle de 2027.
C'est ça qui
est en train aujourd'hui d'être le prisme qui explique le blocage dans lequel on est et qui fait que rien n'avance et que Emmanuel Macron, il va une nouvelle fois devoir chercher dans les prochaines heures parce que François Bayrou va tomber lundi, un point d'équilibre pour tenir à peu près comme
alors, est-ce que c'est la solution qu'il s'en aille? C'est ça la question. Est-ce qu'on va attendre deux ans comme ça ou est-ce
les institutions et le régime qui sont faits ainsi
On va peut-être pas lancer un débat sur le présidentialisme, même si ça aurait été très intéressant.
Mais c'est la vraie question. Mais c'est la vraie question parce que ça fait qu'on est bloqué deux ans avant. Ça fait que c'est l'élection reine qui fait que personne ici. Je veux dire ce que dit Wauquiez ou Retailleau aujourd'hui. Tout, en fait, pour tout comprendre, il ne faut penser qu'à cette élection.
J'étais étonné d'entendre dans la bouche de Laurent Wauquiez l'incitation à détruire le système. Mais c'est un langage d'extrême gauche.
Par le crise de régime, après-midi.
Ah, oui, non, mais tout le monde aussi, tout le monde emprunte à ses adversaires. Et on est dans une sorte de chaos triste. C'est l'état de la France, c'est une dépression colérique.
Mais qui est sincère là-dedans? C'est-à-dire, chacun va utiliser le mot du moment, comme là, le 10 septembre, elle a anti-système, anti-élite, même si vous avez l'air de dire que finalement c'est des élites, c'est SP plus urbaines qui sont... Mais en fait, tout le monde va utiliser le mot du moment, mais qui est sincère? Qui a vraiment une vision?
C'est la guerre de tous contre tous.
Oui, mais moi je veux dire, dès qu'ils utilisent ces mots un peu valises qu'on va entendre partout, je me dis, mais qui a la vraie vision? Qui a une vraie envie? Qui a une vraie vision pour le pays?
Les gens sont perdus, je pense que les Français sont perdus, et c'est ça que traduit, c'est la parole erratique des dirigeants.
Alors, à chaque fois qu'on interroge effectivement un politologue, un observateur de la vie politique, il dit attention à la démission d'Emmanuel Macron, ça créerait un précédent terrible et après les prochains présidents, on appellerait tous à leur démission. Mais je vais vous montrer une archive qui date de 1969 d'un certain général qui est souvent cité, qui lui avait pris ses responsabilités. On regarde.
Si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions.
Olivier Babot, est-ce qu'on peut pas se dire qu'Emmanuel Macron devait prendre ses responsabilités? C'est-à-dire qu'une dissolution qui n'a donné aucune clarification, peut-être une nouvelle dissolution, on n'est pas sûr que ça sera beaucoup plus clair après. Est-ce que finalement, eh bien, ça serait pas une chose responsable qui a été faite au précédent, au cours de la cinquième?
Je suis de ceux qui pensent, je crois qu'on est de plus en plus nombreux à le penser, qu'en effet, nous arrivons à une fin de cycle et probablement la crise de régime est inévitable du fait de la crise budgétaire et financière. Cela étant, qu'un président soit impopulaire, à la limite, c'est presque à ça que ça sert. Bon, notre vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de majorité pour décider d'une politique, voter des budgets et voilà mener une politique pour la France, quelle qu'elle soit. Donc, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'une dissolution permettrait, d'une façon ou d'une autre, d'arriver, alors peut-être au moins à une majorité de coalition, une majorité relative. Alors, rêvons d'une majorité complète, formidable. Brassons-nous Folleville, ce serait incroyable, mais on n'ose pas trop y rêver. Ce serait aujourd'hui quasiment le meilleur scénario, celui qui redonnerait un peu de cap en fait finalement en France.
Alors on parle quand même comme si François Bayrou était déjà tombé. Je remarque sur ce plateau, on n'en fait pas grand cas. Pour nous c'est
peut-on
fait.
Là voilà,
peut-on vraiment douter?
Alors philosophique,
tout est une question de narratif, Léopold. Et ce soir vous arrivez avec un document exceptionnel de BFM, de la rédaction de Ligne Rouge, où on apprend que finalement les oppositions n'étaient pas en vacances, comme le disait le Premier ministre.
Oui, alors c'est vrai qu'on a entendu ce document BFM TV. Qui raconte les coulisses d'une chute annoncée, celle de François Bayrou. À l'intérieur, il y a Patrick Mignola, l'actuel ministre des Relations avec le Parlement, qui est interrogé. Et il y a une autre partie de ce document qu'on va vous faire écouter tout de suite, qui répond à ceux qui disent que, je cite, il n'y aurait pas eu d'appel entre le Parti Socialiste et le Premier ministre pendant l'été, qu'il aurait été détaché de tout ça. Mais écoutez ce que ce proche de François Bayrou explique face à la caméra de BFM TV.
Au mois de juillet, le sentiment qu'on a, c'est que quelque chose peut être discuté, peut être négocié. Il y a un mauvais signal qui arrive, c'est le groupe socialiste qui se réunit et les chefs, Olivier Faure, Boris Vallaud, interdisent aux députés socialistes de parler avec les membres du gouvernement pendant l'été. Parce qu'ils racontent depuis qu'on n'a pas voulu discuter. Mais quand ils viennent me voir, ils disent « Écoute, on vient de voir, mais deux choses. Un, faut pas que ça se sache parce qu'on a l'interdiction de discuter avec vous. Et deux, de toute façon, si vous êtes à 40 milliards, nous on négociera à 20, donc ce sera pas jouable. »
Voilà la version de ce proche de François Bayrou, des discussions cachées. On ne pouvait pas en parler parce qu'il y avait notamment la France insoumise à côté. Ça fera réagir évidemment du côté de la gauche.
Merci Léopold. On va en reparler évidemment avec Pascal Perrineau et Nathalie Schuch dès 19h qui seront les invités du club de BFM. Regardez cette image de Vladimir Poutine et Xi Jinping en pleine discussion. Que se disent ces deux leaders? On aimerait bien les entendre. Eh bien, figurez-vous qu'un micro est resté ouvert. Et de quoi parlait-il? D'immortalité. L'historien, auteur du siècle des dictateurs, Olivier Guèze, sera avec nous en ligne. Il va nous dire pourquoi les dictateurs sont obsédés par le fait d'être des empereurs éternels. Restez avec nous. (Rire) 18h42 sur BFM TV. Bienvenue si vous nous rejoignez dans le club BFM. Je suis toujours en compagnie de Pascal Bruckner, d'Olivier Babot, d'Axel Tessandier et de Léopold Audebert. Et on va se poser une question tous ensemble. Qui n'a jamais rêvé autour de la table ou derrière votre téléviseur d'être immortel? Est-ce que vous aimeriez savoir ce que se disent Vladimir Poutine et Xi Jinping, puisqu'ils étaient réunis cette semaine en Chine et il y a un micro qui est resté ouvert. Regardez à quoi ils rêvent. Deux dictateurs qui rêvent d'immortalité, qui rêvent de pouvoir exercer leur pouvoir jusqu'à 150 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire, Pascal ?
Ils ont les mêmes rêves que les êtres humains ordinaires, mais eux, ils ont les moyens. Et là, cette immortalité leur sert non pas à rendre l'humanité meilleure, mais à exercer leur pouvoir sans limite. Et il faut rappeler que Poutine et Kim Jong-un ont envoyé des dizaines de milliers d'hommes à la mort sans aucun remords. Au contraire, ils assoient leur pouvoir sur un tas de cadavres. Mais eux-mêmes rêvent de vivre pour toujours. Mais Kim Jong-un, on le sait, souffre d'obésité. Il est beaucoup trop gros, donc il est comme un accordéon. Et quant à Poutine, il n'y a pas très bonne mine. Mais quand même, on sent que le poids des ans et le poids des soucis. Et ça fait penser à Donald Trump, évidemment, qui est dont on a vu les mains tachées, les jambes gonflées.
Oui, lui, il n'est pas près de l'immortalité.
Près de la sortie et son sort ressemble beaucoup à celui de Joe Biden, en plus virulent.
Nous sommes en ligne avec Olivier Guèze, historien, écrivain, auteur de « Siècle des dictateurs » aux éditions Perrin, une galerie de 22 chefs autoritaires. Merci d'être avec nous, Olivier Guèze. Est-ce que c'est un trait commun entre ces 22 dictateurs que vous avez analysés, observés, dont vous avez écrit l'histoire? Est-ce qu'ils rêvent tous d'être des empereurs éternels, d'avoir cette hubris en commun de se dépasser?
Alors moi j'ai dirigé, j'ai pas écrit toutes les 22 notices biographiques, mais en tout cas depuis l'aube de l'humanité, ça remonte même au pharaon par exemple qui se faisait embaumer. Il y a cette idée, oui, d'éternité, d'immortalité, de marquer l'histoire, de construire des empires éternels, de construire des reichs de 1000 ans. Et visiblement, Poutine et Xi sont dans cette lignée-là, ce qui n'est pas tellement surprenant compte tenu de leur règne, de leur politique, de ce qu'ils font depuis plusieurs années, et par ailleurs de leur maintien au pouvoir ad vitam, aeternam, j'ai presque envie de dire.
Ils sont âgés de 70 ans, 72 ans pour Xi Jinping, Vladimir Poutine. Ils sont à la tête depuis 12 et 20 ans. Est-ce que vous pensez que ça peut continuer jusqu'à ce qu'ils aient 150 ans, comme ils le disent ?
Je ne l'espère pas. Je ne pense pas, d'ailleurs. Je serais très étonné. Alors, tout le monde, évidemment, cherche l'immortalité, mais les entrepreneurs de la tech les plus riches cherchent aussi l'immortalité. C'est le propre, j'ai envie de dire, de tous les mégalomanes. Xi, Poutine, Nord-Coréen et les entrepreneurs de la tech sont dans cette idée-là. C'est vraiment l'idée de l'empire éternel, quelque chose qui ne leur survivrait pas, qu'ils emporteraient avec eux. Et on l'a vu dans l'histoire, on l'a vu évidemment chez Hitler, on a embaumé Lénine à sa mort en 24. Donc il y a une espèce de continuité parmi tous les grands dirigeants, les grands dictateurs de l'histoire.
Une grande obsession, y compris de leur corps, c'est-à-dire une peur d'être empoisonné. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de l'entretien entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine, où on voit après des salariés regarder, nettoyer et enlever toutes les traces d'ADN. C'est-à-dire qu'il y a une psychose, une paranoïa, où les dictateurs ont peur qu'on les analyse et que peut-être qu'on révèle une maladie ou quelque chose, un bilan de santé. Il y a quand même une forme de paranoïa sur leur état de santé.
La paranoïa, c'est ce qui caractérise aussi le dictateur. Tous les grands, tous les dictateurs, mais tous les monarques ont toujours eu des goûteurs, par exemple, avec cette peur absolue de l'empoisonnement. Et puis, je pense qu'il y a cette idée aussi de ne rien laisser, de ne rien montrer d'humain, en fait, au peuple ou à la planète aujourd'hui. Comme si, quelque part, ils appartenaient à une catégorie, justement, c'est une catégorie d'hommes voués à l'immortalité et à l'éternité. Je pense que ça joue aussi dans la psychologie de ces hommes, qui par ailleurs sont, à mon avis, totalement isolés. Et on l'a vu avec le Covid il y a 5 ans, je pense que sur des hommes pareils, sur ces dictateurs-là, ça a eu un effet absolument dévastateur.
Merci Olivier Guez d'avoir été avec nous. Le siècle des dictateurs aux éditions Perrin. Si vous aviez à diriger une deuxième émission, j'aurais bien aimé vous demander si vous auriez mis Donald Trump dans cette galerie ou pas, mais je ne sais pas si vous m'entendez encore.
Si, je vous entends encore, Disons que les États-Unis sont une pseudo-démocratie encore dirigée par un homme qui a beaucoup de traits de caractère d'un dictateur. Bon, il est au pouvoir depuis 8 mois seulement. Voyons un petit peu comment tout ça se passe.
Et on voit déjà effectivement dans ses goodies sur le site de Donald Trump, eh bien, des casquettes avec écrit Trump 2028. Alors maintenant, c'est l'heure à 18h50 des choix du club, puisque chacun, vous avez fait des choix, des actualités dont vous vouliez parler. Et Olivier Babeau, on va commencer avec vous. Une étude qui explique pourquoi la France perd des points de PIB.
Alors, une étude qui effectivement montre de façon étonnante que quelque chose que nous utilisons tous, car nous sommes tous concernés, n'est pas seulement un problème privé, c'est aussi un problème public. C'est une étude de la Direction Générale du Trésor qui parle de quoi ?
De ça.
N'est-ce pas ? Cette chose que nous avons tous dans les mains. Ce qu'on pourrait appeler le doom scrolling, le défilement de la mort, vous savez, le fait que vous allez pouvoir passer des heures, ça a un impact économique. Aujourd'hui, ça nous priverait déjà de 0,6 points de PIB. D'ici 2060, tenez-vous bien, ça nous priverait de 1,4 à 2,3 points de PIB. Alors pourquoi ? Eh bien, la note identifie 3 effets. Le premier effet, c'est la dégradation de la santé mentale. Vous savez qu'on a montré qu'il y a un lien entre les symptômes dépressifs, la qualité du sommeil, des troubles psychologiques et puis la trop grande consommation d'écran. La deuxième chose, le perte de temps productif, on passerait dans le temps de travail théorique 20 minutes à 2 heures, parfois peut-être pour certains beaucoup plus, de temps qui sont du coup non productifs. Tout ça, c'est du travail qui n'est pas réalisé et donc ça fait moins d'argent.
Sauf si on travaille sur son téléphone portable.
Oui, mais
pas à s'informer, par exemple.
Oui, mais vous êtes attiré par quelque chose. Typiquement, vous avez une notification et hop, ça y est, vous allez regarder un truc sur votre plateforme préférée et vous avez perdu du temps. Et puis le troisième, il est encore plus inquiétant. Tout simplement la dégradation des capacités cognitives. Vous savez qu'on a montré qu'il y a une corrélation négative entre les résultats en maths au test PISA et le temps passé sur les écrans. On pourrait avoir une génération, si elle est très présente sur les écrans, malheureusement, qui tout simplement devient plus stupide, pour le dire assez simplement. Et ça, c'est un coût économique. Voilà.
Qui a le sentiment autour de la table de tomber dans ce scroll infini ? Vous aussi ?
Jamais.
Non.
C'est intéressant parce que le gouvernement s'attaque à cette question, justement, notamment du temps sur les écrans de la part des enfants. Il y a plusieurs réflexions qui sont sur le feu, là, pour les prochains mois.
Interdiction
pour les moins de 13 ans, potentiellement. C'est un combat qu'Emmanuel Macron va tenter de mener. Pour avoir si la situation politique le permettra.
Une fois qu'on a fait ce constat, est-ce que alors il faut traiter ça comme on traite une addiction ? Est-ce qu'il faut mettre dangereux pour la santé ? Est-ce qu'il faut se mettre un temps ? Est-ce qu'il faut l'interdire au moins 18 ans ? Est-ce qu'il faut se mettre des apps ? Je veux dire, une fois qu'on a fait ce constat, une fois que nous on n'arrive pas forcément à se contrôler ou qu'on le cache dans les pièce d'à côté pour ne plus le voir et ne pas être tenté, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ou alors, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Parce qu'une fois qu'on des coachs de désintoxication.
Ou prendre un livre, Pascal Bruckner,
retrouver le plaisir du réel, de la rencontre, de se parler.
Alors, il y a quand même des petites astuces. Moi, je vous donne les miennes. Enlever les notifications et passer son écran en noir et blanc. C'est beaucoup moins sympathique de scroller en noir et blanc. Je vais vous le faire tout à l'heure, Pascal. Pascal Desconcerts de plateau. Gardez la parole, Pascal Fenet, parce que vous avez voulu passer un petit coup de sang en tant que boomer. Vous êtes la digne représentante des boomers ce
soir. Oui, bien sûr, je suis une incarnation même. Et j'étais étonné quand j'ai entendu le plaidoyer de Bayrou sur la dette, que je trouvais plutôt bon et convaincant, qui termine par un coup de griffe aux boomers, c'est-à-dire à lui-même et à son électorat. Alors, de quoi sont coupables les gens qu'il a qualifiés de boomers? C'est d'être nés entre 1945 et 1965, bon, d'avoir connu la période de reconstruction. On traîne les vieux au tribunal de l'histoire, tout en sachant qu'ils vont pas aller défiler dans la rue. C'est pas eux qui vont être là le 10 septembre, parce que
ils votent.
Ils sont un peu fatigués maintenant aujourd'hui. Bah oui. Certains sont en EHPAD.
Vous allez très bien, Pascal. Vous pourriez tout à fait aller dans la rue.
Attendez, je touche du bois. Mais et donc, si vous voulez, c'est sans risque. C'est pas les riches, c'est pas les pauvres, c'est les boomers.
Ils votent quand même, les boomers.
Et quel est leur crime?
Axel, écoutez Axel, effectivement, elle dit quelque chose. Ils votent.
Ils votent, les boomers.
Alors, les boomers votent encore. Oui, on n'aura pas encore supprimé le droit
de vote. Non, mais attends,
Non, bien sûr, ils ont un pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on reproche aux boomers? Au fond, c'est d'avoir reconstruit la France. Parce que c'est une génération qui travaillait dur. Ça, c'est vrai. Il y a eu une dégradation de l'idée de travail depuis quelques années. Et les boomers ont travaillé dur, au moins jusqu'à aux 35 heures qui sont arrivées dans les années 80. Et là, la plupart des gens de cette génération étaient déjà quinquagénaires et donc avaient accompli l'essentiel. Mais on leur reproche d'avoir volé du temps et de l'argent aux jeunes générations. Alors, je rappellerai des chiffres donnés par le compte des patrimoines de la Banque de France. En 1981, le patrimoine des Français était rapporté en euros 750 milliards d'euros. En 2025, il est 16 000 milliards d'euros. En 81, chaque ménage était 120 000 euros. Aujourd'hui, c'est 450 000. Alors, c'est une moyenne. Évidemment, beaucoup de gens sont beaucoup plus pauvres ou beaucoup plus riches, mais on peut dire que quand même, les boomers ont rempli leur contrat. Alors, on peut leur reprocher plein de choses. Et je crois qu'on confond deux choses, c'est les boomers et les 68ards. L'héritage de mai 68, il est composite. On peut faire un droit d'inventaire. Enfin, globalement, mai 68 a quand même ouvert la France. Je rappellerai un petit livre que personne d'entre vous n'a sans doute lu. Mai 68 est expliqué à Nicolas Sarkozy par André Glucksmann et son fils Raphaël. Mmh. À une époque où ils avaient une certaine tendresse pour l'ancien président. Alors moi je suis d'accord, on peut désindexer les retraites, on peut.
Ah vous êtes d'accord, on désindexe les retraites, vous êtes d'accord. Vous dites là peut-être
si
on a trop profité.
À ce moment-là que toutes les catégories sociales fassent elles aussi des sacrifices. Alors, ce qui caractérise la crise d'aujourd'hui, c'est que ni les riches ni les pauvres veulent faire le moindre geste pour alléger la dette. Et ça je trouve ça hallucinant. Quand vous parlez avec des étrangers, vous dites que les Français sont devenus fous.
Axel, vous vouliez réagir?
Non, juste que les pauvres aient moins envie de faire de sacrifices, on peut comprendre.
Oui, ça, c'est normal.
Et ce que je veux dire sur les boomers, je n'aime pas le terme, parce qu'en fait, déjà, a-t-on besoin de plus de clivage, de plus de division entre les Français en ce moment? Je ne pense pas. Mais surtout, on oublie que le problème, il est systémique, il est plus grand que ça, en fait. On a un problème de démographie. On a un problème, en fait, qu'on ne tient plus ce système par répartition, parce qu'on dit on cotise et chacun d'entre nous a l'impression qu'on cotise pour soi, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et donc le fait de dire allez on s'en prend aux boomers de façon très conjecturelle, immédiate, comme si on avait besoin de placer la colère sur quelqu'un, mais c'est pas ça le vrai sujet.
Au printemps 2025 il y avait plus de décès que de naissances. C'est quand même extrêmement grave.
Évidemment, Pascal, mais on ne prend pas les boomers comme bouc émissaire pour rien. Vous vous sentez prise à partie
dans le débat public,
dans l'immédiat.
Peut-être que quelquefois aussi le travail coûte moins que par exemple, la retraité d'un boomer. Il faut quand même encourager aussi les actifs.
Mais je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas en accusant les boomers qu'on va ressusciter le goût pour le travail.
Olivier, vous n'êtes pas un boomer, mais
non, moi j'étais d'après.
Vous ne le serez jamais.
Pour tout vous dire, je suis de 76, donc je sais pas très bien comment ça s'appelle, mais peu importe.
Un an près, vous avez.
Un peu plus que 76.
Le nomadland.
Non, mais on peut pas reprocher à des gens d'avoir eu de la chance. Et en réalité, c'est ça fondamentalement. Les boomers, ils ont eu de la chance. Oui. C'était après la guerre. Ils ont connu le moment des 30 glorieuses. Ils ont tout eu, et puis ils sont arrivés, les gens ont choisi le socialisme, ils ont choisi les 60 ans avant qu'on comprenne 40 ans plus tard qu'en fait c'était juste pas possible pour la retraite, et donc ils en ont profité. Ils ont bénéficié de l'augmentation de l'immobilier complètement dingue, ils ont fait 400% certains sur leur appartement.
Ils pouvaient pas le savoir.
Effectivement, ça veut pas dire qu'il n'y a pas peut-être un effort à faire.
Pascal,
ils ont connu la paix, la prospérité, le plein emploi.
Ok, boomer. On se dit, ok, boomer.
Ok, boomer, ça veut dire ferme la vieux schnock, mais mais je loue.
Non, je... Axel, votre choix du club, c'est un homme qui vaut 1000 milliards, l'homme qui valait 1000 milliards.
Oui, alors il vaut 1000 milliards selon Tesla, qui veut absolument le garder, ce qui est intéressant parce alors, que...
Cet homme, c'est Elon Musk.
Oui, c'est Elon Musk, pardon, qui est en train de négocier, j'ai l'impression, à 10 ans, le fait de pouvoir rester dans l'entreprise. Et sa présence serait... D'abord, ça dénote quand même une faiblesse de l'entreprise, que si l'entreprise est si liée à son dirigeant, je veux dire, Apple a été très puissante, elle avait un charismatique Steve Jobs, elle a survécu à tout, même à son départ, et c'est comme ça qu'on sait qu'une entreprise, elle est très solide. Mais moi, je ne veux pas parler des 1000 milliards, je veux citer le chiffre de 300 000. 300 000, c'est le nombre de vies qui ont été perdues parce que en 4 mois à la Maison-Blanche, le travail d'Elon Musk a été de sucrer toutes les aides au développement. Le Doge est un échec total. Il n'y a pas du tout eu 130.
Alors 130, le Doge, c'était le ce Doge. Ministère qui devait couper dans les dépenses publiques américaines.
Voilà, il n'y a absolument pas 135 milliards d'économies. Tout ça n'a absolument pas marché. Par contre, ce qui a été fait, c'est les coupes. Et les coupes, elles ont un effet. C'est un homme qui est richissime, qui aurait pu prendre son jet pour aller voir à quoi servait l'aide au développement américaine en Ouganda, au Soudan. Tout ça a été coupé. Et tout ça, c'est la responsabilité. Les chiffres sont là. C'est 300 000 morts. Ce sont des enfants qui ne seront pas soignés, où il n'y aura pas de prévention ou de politique de prévention contre le sida. Donc voilà, moi j'associe Elon Musk à ça, à ces 300 000 morts dont personne ne parle et qui sont une réalité. Et c'est ça son bilan de 4 mois à la Maison-Blanche. Et donc je suis très étonnée que cet homme-là vaille 1 000 milliards. Moi je pense à ça. Je pense à cet échec, à ces villas-là et à cette politique très dangereuse seulement en 4 mois.
Alors vous savez qu'il y a eu un dîner il y a 2 jours où Donald Trump a convié tous les patrons de la tech et Elon Musk n'était pas là. Oui. Donc effectivement, il semble y avoir un peu de dans le gaz.
C'est de voir ces patrons de la tech dire merci 8 fois en 2 minutes, le patron de Apple, vraiment venir faire allégeance. Et donc, comme disait Olivier Guez, on est dans une espèce d'autocratie en devenir, mais Donald Trump a un peu les attributs du dictateur aussi en devenir. Et c'était vraiment les voir faire... Et c'est des gens qui ont dit tout le contraire de ce qu'ils sont en train de faire il y a encore 2 ans. Donc ce cynisme-là, pour des gens qui ont cru que la Silicon Valley avait autre chose à proposer et proposer voilà, un autre monde, c'est terrifiant.
Pas de fan d'Elon Musk par ici ?
Non. Mais...
qu'on le veuille ou non, c'est la figure du capitaine d'industrie la plus importante de ce début de siècle.
Et lui, au moins, n'a pas versé dans le larbinisme
qu'est-ce qui va, que restera-t-il de lui ? Quel sera son héritage ?
Il y a quand même, la liste est assez longue.
Non, enfin, je veux dire, Twitter. Non, mais vous pensez pas.
Alors, il a quand même envoyé
Starlink,
les satellites, les fusées, attendez. Peut-être Mars, mais malheureusement, on n'a pas le temps d'ouvrir ce débat.
On parlera longtemps des ravages de Twitter sur la démocratie dans le monde entier et sur 6 milliards de vies ici sur Terre aussi.
Mais USAID, c'est un scandale absolu.
Un scandale absolu dont personne ne parle.
Soft power américain, et ça, c'est la faute de Trump.
Et ce sont des morts. Ce sont des morts.
Merci pour ces choix du club, Olivier Babeau, Pascal Bruckner, Axel Tessandier. Merci Léopold. Merci. On reste ensemble puisqu'on va ouvrir une nouvelle page politique. On va se demander à quoi va ressembler la France la semaine prochaine, le 8 septembre, le 9, le 10 mai, tout de suite à 19h. Pauline, merci d'être là. C'est le rappel des titres.
Et justement, la politique, parce que la rentrée des partis se poursuit encore... Aujourd'hui, les Républicains qui sont dans les Yvelines, aujourd'hui à Port-Marly précisément, région parisienne, la présidente de la région Île-de-France, notamment Valérie Pécresse, qui a évoqué un moment de vérité à 2 jours du vote de confiance qui pourrait donc renverser le gouvernement Bayrou. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, qui était au nord à la braderie de Lille, il appelle à faire partir Macron, c'est ce qu'il dit donc le 10 septembre. Nous bloquerons tout. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. L'actualité également ce soir, c'est ce policier qui est en cours d'identification par la justice parce qu'il a mis une gifle à un jeune homme à Saint-Denis à la fin du mois d'août, sans raison apparente. On voit les images. Ses équipiers sont également concernés. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique. Et puis Israël qui bombarde sans relâche Gaza. Une nouvelle frappe qui a touché un immeuble dans le sud-ouest de la ville cet après-midi. Tsahal qui affirme qu'il était utilisé par le Hamas. Même scénario donc qu'hier, un autre immeuble avait été visé. Le ministre de la Défense israélien a simplement écrit sur son compte X « Nous continuons ». Référence donc aux propos de Benjamin Netanyahou qui a annoncé il y a plusieurs semaines vouloir prendre le contrôle de la ville de Gaza. Et puis je voulais aussi vous montrer ces images. Milan qui rend hommage à Giorgio Armani, décédé donc à 91 ans jeudi. Son corps est exposé dans l'Armani Teatro, un lieu emblématique pour le couturier. Le public est attendu tout au long du week-end. Ses obsèques sont donc prévues lundi. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité, Paola.
Merci Pauline. Et pour ouvrir cette page politique, pour se demander à quoi va ressembler la France la semaine prochaine, après le 8 septembre et après le 10 septembre, Nathalie Schuck nous a rejoint. Merci Bonsoir. D'être avec nous. Auteur de Du Cardinal, la première biographie de Bruno Retailleau, où on apprend que le ministre de l'Intérieur a un côté punk, un peu dago. Alors, ça n'apparaît pas tout de suite. Vous allez nous dire quelle est la véritable personnalité et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le cardinal? Mais d'abord, un mot, puisque vous observez la vie politique depuis des années, sur cette crise politique, vous diriez crise de régime qu'on s'apprête à vivre?
On n'est pas encore en crise de régime, mais si on se retrouve dans une situation où on a un gouvernement qui tombe avec l'hypothèse d'une nouvelle dissolution, on va sérieusement rentrer dans ce qui s'appellerait une crise de régime, oui.
Alors, on va se poser la question de savoir qui, quel serait le prochain locataire de Matignon. Tous les yeux se tournent vers le Parti Socialiste. Vous trouvez que c'est le tour du PS, si je puis dire?
Si on prend la pure arithmétique à l'Assemblée nationale, on peut imaginer que le PS puisse accéder au gouvernement demain, sans ministre LFI, puisque Olivier Faure a pris sa distance le week-end passé, avec, évidemment, en s'associant, ça ne pourrait pas être tout seul, avec la Macronie. Alors, sur le papier, ça fonctionne à peu près à une condition extrêmement importante, qui serait que les Républicains acceptent de ne pas les censurer. C'est le sens de la proposition ou de ce qu'a dit Laurent Wauquiez ces derniers jours, qui a provoqué beaucoup de remous. J'étais cet après-midi à Port-Marly à la réunion des Républicains, et les militants n'ont pas du tout apprécié. Alors ça, arithmétiquement, ça pourrait voler. Sauf que, en fait, les Républicains, que ce soit Bruno Retailleau, chef du parti, ou Gérard Larcher, président du Sénat, qui s'est entretenu avec Emmanuel Macron hier, il n'en est pas question. À ma connaissance, le président du Sénat a dit au président de la République, si on n'y est pas, et si c'est la gauche, si c'est pour faire l'abrogation de la réforme des retraites et une hausse de la fiscalité, ce sera sans nous, on baissera le pouce.
Est-ce que vous êtes d'accord à ce que vous venez d'entendre, Pascal Perrineau? Vous nous avez rejoint, ancien directeur du CEVIPOF et observatoire passionné de la cinquième, c'est-à-dire le titre de votre livre, aux éditions Odile Jacob. Est-ce que vous êtes d'accord à ce que vient de dire Nathalie Schuck? C'est-à-dire que ça va être assez compliqué de trouver quelqu'un pour faire le trait d'union?
Oui, tout à fait. Dans le cas d'une dissolution, s'il y a la recherche d'un nouveau Premier ministre, ça sera très difficile. Mais avant, ça sera encore plus difficile. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité. Et l'art du compromis, premièrement, il n'y a pas de majorité. Deuxièmement, l'art du compromis n'est pas un art parlementaire en France. Hein? Donc, personne ne veut faire de réels compromis. Hein? S'il y a un gouvernement qui est un gouvernement dont le balancier part un peu à gauche, ce qu'ils gagneront à gauche, ils le perdront à droite. Donc, on se retrouvera exactement dans la même situation de fragilité pour le prochain ou la prochaine première ministre dans ce cas-là. Donc, il faut attendre éventuellement une dissolution, mais à condition que les Français changent d'avis. C'est-à-dire que les rapports de force ne soient pas les mêmes. Pour l'instant, ça n'est pas le cas.
Nathalie.
C'est pas ce qui se dessine dans les sondages. Non, effectivement, non. A priori, si on avait une dissolution, on pourrait se retrouver dans une situation similaire, voire même extrêmement compliquée. Je pense en particulier aux Républicains dont on parlait il y a un instant. Imaginez un scénario de cauchemar pour eux qui verrait le Rassemblement national obtenir quasiment la majorité pour gouverner à l'Assemblée à la suite d'une dissolution. Ils iraient chercher où les voix qui manquent? Évidemment, chez les Républicains, qui seraient menacés d'implosion. Ça serait terriblement compliqué pour eux.
Alors, on n'arrête pas, effectivement, de parler de cette zizanie qu'a semé Laurent Wauquiez, qui a dit qu'il ne censurerait pas forcément un parti, un gouvernement socialiste ou un gouvernement du Rassemblement national. On va l'écouter tout à l'heure, puisqu'il a fait un discours pour la rentrée des Républicains.
Et c'est ce système que nous devons faire sauter. C'est cela la cause, c'est cela le vrai combat. Tout le reste ne pèsera rien. Parce que si nous ne nous attaquons pas à ça, on peut gagner toutes les élections du monde, on peut participer à tous les gouvernements du monde, on peut faire tous les beaux discours en disant ici, surtout, jamais de compromission, jamais de la vie. Sauf que le système nous condamne à l'impuissance.
Léopold, là c'est un peu plus clair et pourtant Laurent Wauquiez cette semaine a un peu foutu le, je sais plus comment ça dire ça en bon français, la zizanie.
Oui, c'est plus poli, voilà, effectivement, c'est plus poli de le dire comme ça, mais je comprends votre intention parce que quand on voit la situation parfois on s'interroge sur les conséquences et ce qui va se passer dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Mais ce qui est très intéressant, en fait on peut aller au-delà en parlant de l'art du compromis, est-ce que vraiment à 18 mois d'une présidentielle annoncée comme étant historiquement très importante, l'art du compromis est encore possible. C'est ça, en fait, la clé de voûte de lecture de cette histoire. C'est que chacun est en train d'affiner sa stratégie, son discours, pour se différencier des uns et des autres. En fait, il n'est pas question d'être noyé dans une masse et de renier ses convictions, en quelque sorte, ses idées profondes. Il faut essayer de trouver le chemin le plus clair pour accéder à l'Élysée. Et dans cette stratégie-là, vous voyez que Laurent Wauquiez, effectivement, cherche la parade, lui qui a perdu à 25% l'élection de la présidence des Républicains, pour exister dans le débat. Et ça passe par une manière de se démarquer par rapport à Bruno Retailleau. Il faut aussi prendre ça en compte dans l'équation pour voir pourquoi les uns et les autres sont en train de se diviser. Et d'ailleurs, à gauche, c'est la même histoire. Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon acte une rupture aussi massive et très violente cet après-midi, avec des mots vis-à-vis d'Olivier Faure, qui est tué par les militants devant lui, parce que il a bien compris ce qui pouvait potentiellement se tramer dans les prochaines heures, et il dénonce donc cette grande tambouille, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, avec ceux qui iraient se vendre en quelque sorte pour des postes.
Après Laurent Wauquiez, il s'est fait un sérieux claquage chez les militants et adhérents de droite. Hein. À Port-Marly, je peux vous dire que dans les couloirs, certains militants disaient, mais moi je veux aller parler à Laurent Wauquiez et je vais lui dire ce que j'en pense, on n'est pas du tout d'accord. Nous, le retour d'une gauche qui veut abroger la réforme de retraite, c'est hors de question. Taxer le patrimoine. Non, les gens étaient vent debout contre cette proposition. Il y avait de la colère.
Pas de retour de l'UMPS. Et alors, est-ce que vous avez entendu des militants parler de l'appel de Valérie Pécresse, de David Lisnard, de Jean-François Copé, qui incite quand même largement le président de la République à démissionner?
Alors, c'est pas du tout la ligne de Bruno Retailleau qui dit clairement ça déstabiliserait les institutions. Par ailleurs, Gérard Larcher, en petit comité, explique quelque chose que je trouve assez intéressant et qu'il faut avoir, je pense, en tête. Si on avait une élection présidentielle anticipée, ça se fait, je parle sous votre contrôle, sous 20 à 35 jours. Qu'est-ce qu'on fait infuser comme idée un peu sérieuse dans le débat public aujourd'hui en 20 ou 35 jours? Rien. Donc, c'est la prime aux populistes. Donc, c'est extrêmement dangereux. Donc, je ne sais pas si les gens qui poussent cette idée démission du président de la République ont mesuré que ça ne leur profiterait pas nécessairement.
Non, je crois qu'il faut faire, en effet, il faut être appelé les hommes et les femmes politiques à la responsabilité. On a une crise économique, une crise sociale, une crise financière, et on est dans une crise politique tout de même extrêmement profonde, qui peut avoir des conséquences économiques et financières délétères. Donc, il faut être responsable. Et il faut que les institutions de la Ve République soient remises sur leurs pieds. Or là, on a des déstabilisations en rafale. Première déstabilisation, le président de la République qui décide le soir des Européens. Le soir des européennes, de dissoudre. Déjà, une utilisation de la dissolution complètement baroque, pour ne pas dire autre chose. Deuxième problème, un Premier ministre qui utilise l'article 49 alinéa dans la procédure de discussion budgétaire, alors qu'il ne s'agit pas d'une déclaration de politique générale, comme le prévoit l'article, ou d'un programme. Il s'agit de se mettre d'accord sur un constat de l'ampleur de la dette. Hein ? Étrange. Procédure étrange.
On est passé de baroque à étrange. Voilà, j'attends la suite, Pascal Perrineau.
Le troisième, ce serait un président qui se mette à démissionner. Mais au nom de quoi le président? Il a été élu pour 5 ans. Il peut démissionner quand il engage sa responsabilité. Il y a eu une démission sous la Ve République, 1969. De Gaulle fait un référendum sur la réforme du Sénat, etc. Et il engage sa responsabilité.
Rappelé par Jean-Luc Mélenchon bien tout sûr. À l'heure dans son discours.
Les Français disent non. Le président de Gaulle s'en va. Mais là, en quoi il n'y a pas eu de référendum
Il aurait pu le faire à la rigueur, au soir des législatives perdues. Voilà. Ça aurait eu du sens aujourd'hui.
Voilà. Et vous savez que d'autre part, on peut perdre un référendum et se maintenir. Hein. Donc, regardez ce qui s'est passé en 2005. Hein.
Mais vous trouvez qu'Emmanuel Macron a galvaudé les institutions? C'est-à-dire qu'effectivement, la cinquième, plus rien n'est à sa place.
Ah oui, plus rien n'est à sa place. Il y a l'esprit des institutions n'est plus tout à fait au rendez-vous. Et je crois qu'il est urgent de remettre la Ve République sur ses pieds.
Juste Pascal Perrineau, cette Ve République, on s'interroge en parlant avec des proches parfois, de ministres et même du chef de l'État. Vous pensez, vous, qu'elle est encore en bonne santé? Et quoi, on peut encore en attendre quelque chose aujourd'hui?
Vous savez, la Ve République, elle est plus résiliente qu'on le croit. Elle a passé des crises qui étaient des crises redoutables. Hein, pensez à la crise de mai 1968, par exemple. Elle a résisté à l'alternance. C'était, vous voyez, en 1981, puis une seconde alternance. Bon, voilà. Elle a résisté à la crise que l'on connaît actuellement. Les institutions continuent mal, mais continuent à fonctionner.
On va voir si elle résiste aux prochaines secousses de la semaine prochaine.
Alors, on imagine le président a retrouvé, après un an, le droit de dissolution. Il peut l'exercer, c'est lui qui choisira le moment. Il y aura bientôt tout de même un grand débat. Mais vous avez tout à fait raison, il ne faut pas galvauder le débat de la présidentielle. On peut remettre les choses sur leurs pieds à l'occasion d'un vrai débat présidentiel. Et là, s'il y a une présidentielle anticipée, il n'y aura pas de débat présidentiel. N'oublions pas déjà qu'en 2022, il n'y a pas eu de campagne présidentielle. Ça a été une campagne complètement bâclée. Donc on peut pas, le grand rendez-vous, c'est le rendez-vous présidentiel. Il faut retrouver un vrai rendez-vous présidentiel,
qui
comme
sera
on en a connu dans le passé.
La seule clarification possible.
Bien sûr, la seule.
À un tout petit bémol près, des élus me faisaient remarquer un scénario un peu catastrophe. Imaginez que le président de la République décide de dissoudre l'Assemblée nationale moins d'un an avant la prochaine élection présidentielle. Est-ce que son successeur, sa successeur, aurait la possibilité, du point de vue de la Constitution, de dissoudre ? Alors là, vaste question.
Vaste question.
Voilà.
Qui va poser
on est
pas
sorti du cauchemar.
En cas, François Bayrou, en annonçant ce vote de confiance, a quand même pris à couper l'herbe sous le pied de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Vous lui avez consacré un livre, Nathalie Chuc, Le Cardinal. Alors d'ailleurs, pourquoi le Cardinal ? Racontez-nous.
Alors, le cardinal, c'est évidemment une allusion à la foi de Bruno Retailleau, qu'il ne cache pas, qu'il assume, dit « moi j'ai une foi paroissiale ». C'est surtout un surnom que lui donnait l'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui était croyant comme lui. Et en fait, ils avaient un jeu, c'est que Jean-Claude Gaudin s'amusait à lui offrir des santons de Provence, parce que Bruno Retailleau avait une collection de santons de Provence dans son bureau lorsqu'il était président des Républicains. Donc c'est un petit clin d'œil. Et évidemment, le cardinal, c'est Richelieu, c'est les hommes de pouvoir, parce que paye pas de mine comme ça, Bruno Retailleau. Personne l'a trop vu surgir. Et pourtant, ses proches disent, en fait, Bruno Retailleau, c'est 30 ans d'ambition. Ça fait 30 ans qu'il y pense.
30 ans qu'il y pense.
Ça fait 30 ans qu'il y pense, qu'il y travaille. C'est quelqu'un qui était déterminé, qui a cru avoir plusieurs occasions d'accéder aux plus hautes responsabilités. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2009-2010, son nom avait circulé à l'époque où François Fillon, dont il est très proche, était Premier ministre, pour devenir secrétaire d'État à l'économie numérique. Puis à l'époque, qu'est-ce qui s'était passé ? Philippe de Villiers avait dit « Ah non, veto ». Il a appelé Nicolas Sarkozy pour lui dire « Non, ça c'est un mauvais coup, c'est pas possible ». Ensuite, il a cru qu'il allait devenir Premier ministre à l'époque où François Fillon était candidat, puis ça s'est fini, comme on le sait, extrêmement mal. Donc il a loupé plein d'occasions, le parti lui a échappé une première fois. Donc ça fait très longtemps qu'il trépigne au port du pouvoir. Et je peux vous dire une chose, c'est que là, il n'a pas du tout l'intention de se faire débarquer du gouvernement.
Et on a l'impression de voir quelqu'un de plutôt austère, assez rigoriste. Effectivement, vous l'avez dit, fervent, croyant, assez quand même droit sur des positions très conservatrices. Et on découvre dans votre livre que vous dites c'est un passionné et que certains proches disent c'est un punk, un peu dingo, un marrant, effectivement, qui a été cascadeur pour le Puy du Fou. Enfin, on découvre vraiment un autre aspect de Bruno Retailleau qui n'apparaît pas du tout quand on le voit en tant que ministre de l'Intérieur.
Alors évidemment qu'il n'est pas punk, il n'écoute pas du métal, il ne va pas au Hellfest. Ça c'est certain. Par contre, c'est quelqu'un, alors moi je le pratique depuis un certain nombre d'années, il a une image publique qui est assez fausse par rapport au personnage privé. C'est quelqu'un qui est assez facétieux, qui fait des farces. Moi, j'ai eu l'occasion de me retrouver dans son bureau parce que j'écrivais ce livre sur lui, que je l'ai rencontré à nombreuses reprises au moment où le gouvernement de Michel Barnier était tombé. Et sa grande blague, c'était qu'il sortait pour discuter soit avec Gérard Larcher, soit avec le directeur de cabinet de François Bayrou qui venait d'être nommé. Et il rentrait dans la pièce, il prenait un air un peu compassé, il disait « c'est pas possible ». Ils vont nous mettre Sandrine Rousseau à la défense. Et là, tout son cabinet disait, non, tu rigoles, Bruno, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Donc, il est assez facétieux, il peut être drôle. C'est quelqu'un qu'on imagine premier de la classe toute sa vie. Quand il était gamin, il était pas bon du tout à l'école. Il bossait pas, ça l'ennuyait, il aimait pas. Évidemment, le patron des Républicains, ministre de l'Intérieur, on pense que il a une conduite impeccable, etc. Il a passé son permis de conduire 4 fois. Voilà, il a eu le code du premier coup, la conduite, la 4e fois. Et puis, c'est quelqu'un qui a des passions, qui est passionné d'art. Il a une galerie d'art qu'il adore dans le Marais, où il va souvent. Bref, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus subtil, nuancé et drôle dans la vie personnelle.
Oui, et je crois, si vous voulez, il y a quelque chose d'exceptionnel dans le phénomène Retailleau. Jamais en un temps aussi bref, un homme qui était un marginal au hit parade de l'opinion et s'est imposé comme un des premiers rôles dans l'opinion. Ça s'est fait avec une vitesse. Pourquoi ? Parce que cet homme, dans sa diversité, je suis d'accord avec Nathalie Chuc, correspond quelque part à l'ère du temps aussi. Et n'est pas la caricature qu'il est. On le présente comme l'archétype de la droite conservatrice vendéenne.
Ah bah quand même, vous pouvez pas dire qui.
Ce n'est pas l'archétype de la droite. Philippe de Villiers, quelque part, peut être un archétype. Vous savez que Retailleau s'est émancipé de l'influence de Philippe de Villiers, et c'est un homme qui a plusieurs cordes à son arc. Il a écrit, par exemple, un livre sur l'écologie qui mérite d'être lu. Vous voyez, dans lequel on découvre un Bruno Retailleau qui réfléchit sur l'écologie, assez surprenant. Le seul danger pour lui, c'est qu'il ne s'enferme pas lui-même et qu'on ne l'enferme pas dans une caricature. C'est toujours
Pascal
le danger.
Pascal Perrineau, c'est pas une caricature quand même, puisque effectivement, il a pris des positions. Alors, c'est sa conviction intime et il a tout à fait le droit, mais effectivement, il a voté contre le fait de mettre l'IVG dans la Constitution. Oui, il a voté aussi contre le fait qu'on puisse, eh bien, interdire les stages pour convertir les homosexuels. Ça, quand même, on fait pas de caricature. C'est quand même la droite très rigoriste, Nathalie Schuch.
Il a quand même des positions assez conservatrices qu'il assume. Après, encore une fois, là, c'est à titre privé, il est beaucoup plus ouvert. Oui, oui. Et certains de ses proches ont dit, vous avez recensé effectivement tous les votes qu'il a pu avoir à l'époque où il était sénateur contre la constitutionnalisation de l'IVG. Il avait été un des soutiens importants des anti-mariages gays. Il a favorisé l'immixtion du groupe Sens commun à l'intérieur des Républicains. Il a voté contre l'interdiction des thérapies de conversion. La barque est un petit peu lourde. Et plusieurs de ses proches ont dit, mais Tu vas être obligé de lever cette hypothèque. Si tu veux devenir un jour président de la République, il faut que tu ailles à la télé, que tu dis « je comprends que deux hommes, deux femmes puissent s'aimer, vouloir se marier, avoir des enfants ». Et ce que disent ses proches, c'est « de toute façon, si tu es président, on fera un moratoire sur les questions de société à voir ».
Le cardinal à lire aux éditions Robert Laffont, Pascal Perrineau, Nathalie Schuch, merci. On va voir donc si Bruno Retailleau parvient à rester dans ce prochain gouvernement, si prochain gouvernement il y a. Écoutez, je vous invite, merci d'avoir été là. On va accueillir tout de suite Bernard-Henri Lévy, écrivain et philosophe, car on va changer de plateau puisque on peut passer désormais à l'international. On sait déjà où aura lieu le prochain G20. Et alors, c'est à Miami, dans l'énorme golf de Donald Trump. C'est le président américain qui l'indique lui-même et il rajoute « J'aimerais bien que Vladimir Poutine et Xi Jinping soient présents. » Alors, ce soir, on se demande à quoi joue Trump. Est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme un allié de l'Europe, un allié de l'Ukraine? Grand angle avec Thierry Arnault, journaliste pour BFM TV au service international. Et Bernard-Henri Lévy, merci d'être avec nous, écrivain et philosophe. Je rappelle que vous sillonnez l'Ukraine et que vous avez sorti un documentaire, Notre Guerre, qui est toujours disponible sur le site de France Télévisions. Alors, d'abord, un mot sur la politique, puisqu'on vient d'en parler avec Nathalie Schuch, Pascal Perrineau. Effectivement, on appelle à la destitution d'Emmanuel Macron, on veut faire tomber un gouvernement à l'heure où, vous allez sûrement nous le dire, l'heure est grave et la Russie est aux portes de l'Ukraine. Qu'est-ce que ce spectacle de la classe politique vous inspire avec ces grands enjeux qui dominent le monde ?
La classe politique, je ne sais pas, mais l'appel à la destitution du président, c'est un mot d'ordre qu'on entendait chez les partisans du général Boulanger avant l'affaire Dreyfus. C'est un mot d'ordre qu'on entendait dans la bouche des ligues des années 30, avant le Front populaire. C'est un argument d'extrême droite. Alors, je sais que on entend ça aujourd'hui chez des gens qui sont étiquetés d'extrême gauche. Enfin, pour moi, ça ne change rien. Ça s'appelle, c'est un mot d'ordre rouge-brun. Appel à la destitution du président, qui a été élu pour 5 ans, qui n'a pas, comme c'était rappelé tout à l'heure sur votre plateau, qui n'a pas mis son mandat en jeu. C'est anti-républicain et anti-démocratique. C'est comme ça. Il est élu pour 5 ans, il peut être à 15% dans les sondages, ça n'a aucune espèce d'importance.
Alors, quelle image ça renvoie? Parce qu'effectivement, Emmanuel Macron se veut un peu l'homme fort de cette coalition des volontaires, pas seulement lui, avec aussi Keir Starmer. Évidemment, il arrive à obtenir des choses. Il y a 26 pays qui se sont rassemblés cette semaine et qui se sont engagés, en cas de cessez-le-feu, à donner des garanties, à garantir la sécurité de l'Ukraine, sur le sol, dans les airs et sur la terre, et même à envoyer des troupes occidentales. Écoutez Volodymyr Zelensky qui parle de milliers de soldats en cas d'armistice.
Nous comprenons quel pays est prêt à déployer quoi. Et aussi avec ce que vous avez dit, qu'il y a des informations selon lesquelles 10 000 soldats seront déployés. Encore une fois, je ne parlerai pas de chiffres, mais c'est important que nous parlions de tout ça. Oui, il y en aura certainement des milliers, pas seulement quelques-uns. C'est un fait, mais il est encore un petit peu trop tôt pour en parler.
Alors, Vladimir Poutine n'a pas tardé à réagir. Il a dit « Ces milliers de soldats, s'ils sont déployés, ce sont des cibles légitimes ». Est-ce que c'est vraiment cette méthode-là qu'il faut employer avec Vladimir Poutine ?
Ah ben, je crois que c'est la seule. Attendez, il n'y a pas de bonne méthode. Quand on a affaire à un prédateur, à un dictateur qui veut votre peau, c'est-à-dire la peau de l'Europe, il n'y a pas de bonne méthode. Mais c'est mieux la méthode du rapport de force que la méthode qui consiste à se coucher. Il vaut mieux que Macron et l'Europe disent « on est prêt à envoyer des troupes » que de dire « on est prêt à toutes les concessions et à tous les abandons ».
Alors, il y a d'autres méthodes. Il y a des sanctions économiques, par exemple, qu'on pourrait augmenter. Il y a, par exemple, prendre les avoirs gelés russes. Ça, est-ce que ce ne sont pas d'autres méthodes qui pourraient plus asphyxier la Russie ?
Je suis partisan des deux. Je suis partisan, en effet, d'accroître le poids des sanctions économiques, d'arrêter d'acheter de l'énergie à la Russie. Hein. Deux, je pense qu'en effet, saisir les avoirs russes gelés est une bonne chose. À l'époque, vous savez, François Hollande, il y avait la question des Mistral. Est-ce qu'il fallait livrer à la Russie ou pas des navires de guerre Mistral que la France avait signés? Tout le monde disait « Oh là là, on va déshonorer la signature de la France, etc. » François Hollande l'avait fait, courageusement, il avait eu raison. Et puis, il y a une troisième méthode, donc sanction, prendre les avoirs russes pour financer, en effet, l'aide à l'Ukraine. Et troisièmement, oui, faire que les armées européennes, si elles doivent servir à quelque chose, c'est à ça. C'est à se déployer sur une ligne de front qui, à partir de laquelle on nous menace.
Est-ce que l'Europe est crédible aujourd'hui dans l'exercice de cette menace ? Est-ce qu'elle a les moyens de déployer ses forces dont elle part d'une part ? Et pour faire le lien avec le sujet qu'on évoquait il y a une minute, est-ce que sa crédibilité n'est pas d'autant plus fragile que ceux qui incarnent cette démarche sont dans des positions politiques extrêmement délicates chez eux, qu'il s'agisse d'Emmanuel Macron, qu'il s'agisse du Britannique Keir Starmer, qu'il s'agisse dans une moindre mesure, mais quand même, du chancelier allemand Friedrich Merz?
Les moyens, d'abord, l'Europe les a. Les budgets militaires des pays d'Europe additionnés sont supérieurs au budget militaire de la Russie, vous le savez. En nombre de moyens et d'hommes, quand on additionne aussi, en tenant compte du fait qu'évidemment il y a des doublons, etc., l'Europe tient tout à fait son rang face à la Russie. Il n'y a aucun doute qu'elle en ait les moyens. Si elle en a la volonté, elle en a les moyens.
Mais personne n'en a la volonté. Par exemple, quand on écoute les Italiens ou les Allemands, eux ne sont pas forcément prêts, ou plutôt très réticents, à envoyer des troupes sur le terrain.
Écoutez, il y avait avant-hier à Paris 20 et quelques pays européens, plus le Japon, le Canada, etc., qui se sont accordés sur une volonté, en effet, de fermeté. Pardon, les choses ont progressé.
Alors, et qui voulait aussi que les Américains prennent parti. Or, on voit bien que du côté de Donald Trump, il a dit « oui, oui, je vais aider, mais attention, les Européens doivent faire leur part ». Antoine Allard est avec nous, correspondant à Washington. Antoine Allard, vous avez des informations. Le soutien américain n'est pas quand même tout à fait acté.
Oui, absolument. Et on en a eu encore une preuve hier lorsque Donald Trump, dans le bureau ovale, a été interrogé sur les garanties de sécurité que les États-Unis pourraient apporter. Il est resté extrêmement vague. Il s'est dit prêt à aider. Mais vous l'avez dit, il explique que c'est essentiellement à l'Europe de s'en charger. Et on voit bien que le président Trump est très réticent à l'idée de s'engager. D'abord, il a tracé une ligne rouge très claire. À plusieurs reprises, il a dit qu'il n'y aurait pas de soldats américains qui seraient déployés en Ukraine pour garantir la paix. Il faut bien voir que pour de nombreux Américains, ce conflit en Ukraine, c'est quelque chose de très lointain qui ne les concerne pas. Et l'opinion publique, et les électeurs de Trump en particulier, ne comprendraient pas que des soldats américains aillent risquer leur vie là-bas. Il y a quelques semaines, Trump, à la place, avait évoqué un soutien aérien. Mais là encore, ça reste très flou. Les choses tardent à se concrétiser. Et c'est la même chose du côté des sanctions. À plusieurs reprises, Trump a dit qu'il perdait patience face à Vladimir Poutine. À plusieurs reprises, il a brandi la menace de sanctions sans finalement jamais passer à l'action. Et on a le sentiment qu'il y a aussi une forme de lassitude chez Donald Trump face à ce conflit qui n'en finit pas. Trump a toujours été convaincu que ses très bonnes relations avec Poutine lui permettraient de régler facilement la guerre en Ukraine. Finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Et il y a la tentation pour Donald Trump tout simplement de jeter l'éponge et de se retirer de son rôle de médiateur. C'est d'ailleurs ce qu'il répète assez souvent avec cette phrase, disant que ça n'est pas ma guerre, mais celle de Joe Biden. Trump qui dit qu'il essaye simplement d'aider pour arrêter les tueries.
Merci Antoine Lard. Bernard-Henri Lévy, est-ce qu'on n'est pas aussi en train de se faire balader par les États-Unis qui nous mettent des énormes droits de douane, qui nous disent « Ok, je vais vous aider, mais il faudra acheter des armes américaines » et qui finalement pourraient se lasser, se désengager?
Bien sûr. De toute façon, j'entends dire les faits. Il est clair que Donald Trump n'est pas prêt à aider l'Europe. Pour l'instant, depuis son élection, il ne fait qu'aider Poutine. Il a endossé, il a pris à son compte le narratif de Poutine. Quand il le reçoit en Alaska, il se range à ses conditions, traité de paix et par armistice, etc. Donc ça, il faut en prendre son parti. C'est tragique, c'est triste et tragique. Mais en effet, l'Europe doit prendre son parti du fait que dans cette partie-là, dans cette affaire-là, où se joue son destin, ben les États-Unis ne seront pas au rendez-vous.
Mais est-ce qu'on peut faire sans lui? Est-ce qu'on peut faire sans eux?
Bien entendu qu'on peut faire sans eux. Alors, on n'y est pas préparé. On ne s'attendait pas à cela, à tort d'ailleurs. Parce qu'en vérité, ce retrait américain de la scène européenne, il s'annonce depuis très longtemps. Depuis Barack Obama au moins. Vous savez, à l'époque où Barack Obama n'est pas venu défiler avec un grand nombre de chefs d'État du monde après les attentats contre Charlie Hebdo, il y avait déjà là un signe, le fait que les États-Unis regardaient vers l'Asie, ne regardaient plus vers l'Europe et étaient en train de rompre le fil d'or, le fil sacré qui reliait depuis 250 ans les États-Unis à l'Europe. Donc c'est une vieille, enfin une histoire qui remonte à un certain temps. Les Européens n'ont pas voulu entendre les signaux qui disaient ce désengagement américain. Là, ils sont confrontés. Ben, il faut maintenant.
Ça veut dire qu'on perd son temps lorsqu'on téléphone à Donald Trump, lorsqu'on envoie accompagner Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche, sept chefs d'État et de gouvernement européens pour tenter de séduire, de convaincre le président américain. Tout ça est en pure perte.
Écoutez, j'espère que non. J'espère.
Mais vous doutez.
Voilà. Oui.
Non, ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas que Donald Trump, il y a aux États-Unis, au Congrès, des femmes et des hommes qui sont des républicains d'anciennes cultures, qui croient à la mission démocratique de l'Amérique et qui ne sont pas d'accord avec Trump. Donc c'est ça, en effet, le delta sur lequel les Européens peuvent jouer. Mais Trump lui-même, je crois que depuis le premier jour, il a annoncé la couleur. Il pense comme la Russie.
On passe à un autre terrain au Proche-Orient. Regardez cette image, Bernard-Henri Lévy. C'est l'armée israélienne qui désormais vise des tours d'habitation dans la ville de Gaza, dont elle affirme qu'elles sont investies par le Hamas. Elle a annoncé établir une zone humanitaire à Khan Younes. L'armée israélienne le dit, elle se prépare à l'assaut de la ville de Gaza. Quel est l'objectif de cette guerre qui est menée aujourd'hui par Benjamin Netanyahou? Est-ce que vous le comprenez toujours?
L'objectif, il n'est pas mystérieux. Il y a deux objectifs. Libérer les otages et détruire le Hamas comme force militaire et comme force de gouvernement. Le second objectif est peut-être atteint, c'est possible. C'est possible. Le premier ne l'est pas. Les otages ne sont pas libérés.
Les otages ne sont pas libérés. Mais quand on regarde ces images, on a l'impression que l'autre objectif, eh bien, c'est de raser la ville de Gaza, de l'encercler. C'est d'ailleurs l'objectif affiché de l'armée israélienne. Est-ce que vous ne pensez pas là qu'il y a un saut vers l'avant, une guerre sans fin et peut-être un cercle vicieux qui s'installe?
Il y a une guerre sans fin de la part du Hamas qui a perdu cette guerre depuis des mois. Qui considère que la seule façon, la seule victoire qu'il pourrait remporter, c'est d'avoir dans les rangs de la population palestinienne le plus de morts possible. Et il y a une fuite en avant du Hamas.
Il n'y avait pas d'autres chemins, d'autres voies, d'autres méthodes possibles du côté des Israéliens?
Un Israël appuyé par ses alliés traditionnels, appuyé par la communauté internationale, laquelle aurait fait pression sur le Hamas et sur ses parrains pour que les otages soient libérés et pour que le Hamas soit désarmé, c'était un autre chemin. Et là, c'est pas ça qui s'est passé, puisque très vite après le 7 octobre, certains des alliés traditionnels d'Israël...
Lesquels, en l'occurrence?
L'Union européenne, par exemple.
A lâché Israël?
A lâché Israël très vite. Les opinions publiques ont été saisies d'une fièvre de haine et de réprobation avant même d'ailleurs la riposte israélienne.
Mais Bernard-Henri Lévy, Et évidemment qu'il faut sauver ces otages et les libérer, mais jusqu'où va mener cette guerre? Jusqu'à combien de milliers de morts? Aujourd'hui, le chef de l'Organisation mondiale de l'OMS alerte sur la famine à Gaza. Il dit qu'il y a une catastrophe. Il y a énormément de voix d'intellectuels qui s'élèvent, qui commencent à parler. Je pense à l'écrivain David Grossman qui dit « Attention, il y a un génocide en cours ». Je passe à l'historien Elie Barnavi qui parle d'un crime contre l'humanité. Est-ce que quelquefois, vous n'avez pas des doutes? Est-ce que vous ne vous dites pas « Attention, là, il faut sortir de ce blocus de Gaza ».
Des doutes sur quoi?
Des doutes sur le fait peut-être...
Sur la famine à Gaza et sur le génocide à Gaza, je n'ai pas de doute là-dessus. Je ne pense pas qu'Israël, vous pouvez l'accuser de ce que vous voulez, Israël n'est pas coupable de génocide. Une guerre où on avertit les habitants, comme on l'a fait encore aujourd'hui, d'aller, de se déplacer vers une zone humanitaire plus sûre avant de bombarder un immeuble, c'est pas un génocide.
Non.
Une guerre où on met 2 ans... Attendez, une guerre où on met 2 ans... À réduire un adversaire dans un territoire grand comme un mouchoir de poche, c'est pas un génocide. Et quant à la famine, j'ai dit ça 20 fois, j'ai consacré des bloc-notes du point à cela, c'est pas Israël qui crée la famine à Gaza. Les camions passent et c'est le Hamas qui les bloque, ou c'est les ONG qui ne veulent pas les distribuer, ou c'est l'ONU qui décide que les conditions ne pas... Je peux comprendre d'ailleurs que les routes ne sont pas sûres, que les conditions ne sont pas bonnes pour distribuer cette aide. Mais Israël n'est pas responsable de la famine à Gaza.
Alors, vous avez été sur tous les terrains de guerre. Il y a maintenant, aujourd'hui, des historiens qui vont à Gaza. Je pense à, par exemple, Jean-Pierre Filu, qui a écrit un livre, qui a été dans la bande de Gaza. Est-ce que vous penseriez à y aller?
Bien sûr, le jour où la bande de Gaza sera ouverte aux journalistes, ce qu'elle ne l'est pas, bien sûr que je serai prêt à y aller. Pour l'instant, il n'y a pas de journaliste européen qui soit allé à Gaza. Je ne sais pas comment Jean-Pierre Filu a réussi à y aller.
Il s'est infiltré, mais c'est un autre problème, effectivement.
Il s'est infiltré comment?
Alors, je crois qu'il s'est infiltré avec Reporters sans frontières, avec l'aide de Reporters sans frontières.
Jean-Pierre Filu s'est infiltré avec l'aide de Reporters sans frontières. Bon, bah, écoutez, c'est
très
bien.
Est-ce que ce n'est pas un problème, justement, que les journalistes ne puissent pas aller dans cette bande?
Mais bien sûr que c'est un problème.
Parce qu'Israël les en empêche, pour dire les choses clairement.
Mais je suis partisan. Si j'avais l'occasion de parler aux responsables israéliens, je leur dirais que bloquer les journalistes n'est pas une solution, que en effet l'information est clé, bien sûr, oui. Et je serai prêt. Écoutez, j'ai couvert toutes les guerres du monde. Ça fait 40 ans, 50 ans que je couvre des guerres. Parfois, d'ailleurs, c'est pas un argument, mais beaucoup plus meurtrières que celle-là. Hein, j'ai couvert des guerres au Soudan du Sud, au Darfour, etc., où les morts se comptaient en centaines de milliers. Bien sûr que je serai prêt à la Gaza.
Et quelle différence pour vous avec Gaza? Alors, vous dites effectivement qu'il y a eu des centaines de milliers de morts. Mais là, la différence, est-ce que c'est pas que cette population civile est bloquée, qu'elle ne peut pas s'échapper? Est-ce que... Je vous pose la question.
Oui, mais...
C'est pas une guerre classique, effectivement. Ça, c'est inédit, ce blocus.
Elle est bloquée par qui? Qui la bloque? Qui l'empêche de s'échapper?
Là, pour l'instant, c'est l'armée israélienne qui bloque
et, Et puis?
Et puis, c'est-à-dire, vous pensez que c'est le Hamas qui...
Non,
qui...
l'Égypte.
Oui, effectivement, l'Égypte.
Il y a une frontière avec l'Égypte. Pourquoi est-ce que l'Égypte n'ouvre pas ses frontières de toute urgence? Je veux dire, à l'époque de la guerre de Bachar al-Assad contre son propre peuple en Syrie, même Erdogan, qui n'est pas un démocrate, avait ouvert ses frontières pour les réfugiés qui fuyaient la guerre. Pourquoi est-ce que l'Égypte n'ouvre pas sa frontière? Pourquoi est-ce qu'elle n'accueille pas les femmes et les enfants innocents qui sont bombardés? En effet, c'est je n'ai jamais vu ça. Un terrain de guerre qui est à ce point fermé et qui est comme une espèce de piège de souricière qui se referme, c'est une première. Mais il y a à cela nombre de responsables, et vous le disiez vous-même, aussi le Hamas, ceux qui auraient la tentation de se réfugier, cela en serait empêché par le Hamas.
Thierry Arnaud, je vous pose juste une question. Un mot quand même qui concerne le fait que Emmanuel Macron peut-être n'est plus le bienvenu en Israël. Oui. Je pense effectivement à ce ministre qui dit qu'il n'apporte pas la paix. Et effectivement, en tout cas, là, il est interdit de séjour.
Oui, on est dans un contexte effectivement où le président de la République n'est plus le bienvenu en Israël, où les autorités israéliennes évoquent même la possibilité de fermer le consulat de France à Jérusalem, qui est en quelque sorte l'ambassade officieuse de la France auprès des territoires palestinien. Et ça soulève deux questions, Bernard-Henri Lévy, parce qu'on a bien compris que ce qui motivait cette hostilité et ces décisions et ces annonces, c'est l'annonce par le président de la République le 22 septembre à la tribune des Nations Unies de la reconnaissance d'un État palestinien. Est-ce que dans le contexte qu'on vient d'évoquer, il fallait faire cette annonce de votre point de vue? Et deuxièmement, comment vous ressentez, quelle conclusion vous tirez de voir l'état désastreux, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, aujourd'hui, des relations entre France et Israël?
D'abord, votre première question, est-ce qu'il fallait faire cette annonce? Pas comme ça. Un État palestinien, la solution à deux États, j'y crois depuis 1969, 67 même d'ailleurs. Donc là-dessus, il n'y a pas... Mais pas qu'un un État palestinien, quand les otages seront libérés, quand le Hamas aura été désarmé, et quand il y aura une autorité palestinienne digne de ce nom, qui sera prête à admettre la coexistence avec Israël. Même Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, a deux discours. Quand il parle au président de la République française, il lui dit qu'il regrette le 7 octobre, etc. Et puis quand il parle à sa propre...
Il l'a même écrit dans une lettre.
Oui. Et quand il parle à son opinion publique, quand il parle à la presse palestinienne, ou quand sont rédigés des programmes scolaires en Palestine, les assassins du 7 octobre sont considérés comme des héros, ils participent d'un mouvement de libération globale, et ceux d'entre eux qui meurent, entre guillemets, en martyrs, voient leur famille récompensée jusqu'à la fin des temps. Alors, il faudra un État palestinien le jour où ce type de langage aura cessé, le jour où il y aura une autorité palestinienne qui sera décidée à sortir de ce piège infernal dans lequel les leaders palestiniens ont enfermé leur peuple depuis maintenant des décennies.
Sinon, c'est une forme de chèque en blanc, c'est ça que vous dites?
Mais c'est prendre le problème à l'envers. Vous ne commencez pas par cette annonce qui va être considérée par les...
Alors, vous dites que c'est un cadeau du Hamas, mais le Hamas n'a pas du tout envie de...
Ah bah écoutez, il n'a peut-être pas envie, mais il a été le premier à remercier la France après l'annonce faite de cette future
peut-être
reconnaissance.
Peut-être que ce n'est pas tellement un cadeau pour le Hamas, effectivement, d'acter ce double État, c'est-à-dire cet État d'Israël, cet État...
Mais bien sûr que le Hamas n'a pas envie de gérer un État, n'a pas envie de créer une nation palestinienne.
Il faut juste rappeler que les conditions fixées par la reconnaissance de l'État palestinien, c'est que le Hamas n'y participe pas et n'exerce aucun rôle dans le gouvernement des territoires palestiniens.
Et qu'il soit désarmé.
Oui, oui. Mais quels moyens se donne-t-on pour cela? Quelle pression exerce-t-on? Est-ce que vous avez vu une conférence convoquée avec l'Égypte, le Qatar, la Turquie, essayant de voir comment faire pour qu'émerge une autorité palestinienne respectable et digne? Vous ne l'avez pas vu? Est-ce que vous avez vu des pressions sur les pays parrains du Hamas pour que le Hamas lâche prise? Non, il y a des pressions sur Israël, et encore des pressions sur Israël, et toujours des pressions pour Israël.
Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir été l'invité du club de BFM. On va passer à la dispute du club et on va parler de justice fiscale. Vous entendez peut-être François Bayrou, le Premier ministre, appeler les Français à se serrer la ceinture, à peut-être offrir à l'État pour rembourser la dette deux jours fériés. Eh bien, certaines voix voudraient taxer les riches, et notamment cette taxe Zucman dont on parle beaucoup, qui voudrait taxer à 2% les foyers les plus fortunés. On débat ce soir avec Vincent Beaufils. Bonsoir, directeur de la publication de Challenge et auteur de un livre, Les patrons sont-ils des monstres, contre Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT. A priori, deux visions de l'économie plutôt opposées. Mais on vous laisse le bénéfice du doute et je vous pose la question, Thomas Vacheron. Est-ce que vous trouvez qu'en France, on demande toujours des efforts aux mêmes et pas aux ultra-riches?
La problématique, c'est évidemment celle-là. C'est d'ailleurs souvent ceux qui font le plus de profit, qui accaparent le plus de richesses, qui disent aux autres de serrer la ceinture. Et ce en quoi il y a quelque chose de très éclairant, puisque l'interlocuteur, il dirige Challenge, le journal, montre dans le dernier numéro de cet été qu'en 1996, le patrimoine des plus grandes fortunes représentait 6% du PIB, des richesses du pays, et qu'en 2024, on est à 42%, 14 fois plus qu'en 1996. Et donc, d'un côté, il y a une austérité qui souhaite être imposée aux salariés, à toute la population, aux jeunes et aux retraités. Et de l'autre côté, une petite partie de la population accumule et s'accapare des richesses au détriment de tous les autres.
Alors, regardez Vincent Beaufils, puisque vous l'interpellez directement, le patron de la rédaction
de Challenge, j'avais dit. Et il fait référence à ce qui a été effectivement notre numéro de l'été sur les 500 fortunes de France. Et c'est vrai, c'est-à-dire, ces fortunes ont augmenté. Mais moi, je commence d'abord par m'en réjouir, parce que je pense que c'est un bon indicateur de performance, de réussite économique, et que si notre pays n'allait pas réellement dire de manière dynamique, eh bien, on n'aurait pas ce résultat-là. Ensuite, vient la question de savoir si effectivement ils sont suffisamment imposés. Mais la première chose à dire, c'est qu'effectivement, on ne va pas se plaindre d'avoir une économie qui produit effectivement des richesses. Et quand on produit des richesses, on produit des fortunes et des gens riches.
Alors, vous réjouissez Thomas Vacheron ?
Nous, ce dont on se réjouit, c'est de ceux qui créent la richesse, ce n'est pas les patrons. La preuve, il peut y avoir des entreprises sans patron, par exemple les Scop. Et il y a aujourd'hui des usines comme celle de Duralex, comme celle d'été 1383 qui sont reprises par les salariés sans patron. Donc on peut avoir des entreprises sans patron, par contre il n'y a pas de patron sans salarié. Mais au-delà de ces éléments précis, ce qu'il faut regarder, c'est d'un côté l'évolution dont je viens de parler, d'augmentation de l'accaparement de richesses par quelques-uns, de 6% du PIB, comme je le disais, à 42%. Et il y a un parallèle, c'est l'accroissement de la pauvreté. Et en fait, l'accaparement de richesses par quelques-uns, c'est pas une question donc de jalousie ou de sentiment. C'est bien qu'il y a une concurrence entre les deux, et les richesses, elles sont créées par celles et ceux qui travaillent. D'ailleurs, je note que il y a pas de lien entre la rémunération et l'efficacité. Par exemple, le patron de Stellantis, Tavares, qui a fait des milliers de licenciements, il a eu, j'ai noté le chiffre quand même, grâce à votre journal, 23 millions d'euros de revenus en une année. 23 millions d'euros, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous peut-être. Ça fait 60 000 euros par jour, 2600 euros par heure pour des résultats catastrophique, c'est un gouffre. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe chez Stellantis, ça veut dire Peugeot, Fiat, etc. C'est une catastrophe. Et donc, c'est pas le résultat, c'est tout l'inverse qui se passe.
Je pense qu'on peut s'arrêter une seconde quand même sur la question des rémunérations que vous dites ça, parce que justement, il y en a une qui va être mise en cause d'ici quelques jours, puisqu'il y a l'Assemblée Générale de Kering qui doit valider la rémunération extrêmement élevée, 22 millions d'euros, de Luca De Meo, l'ancien patron de Renault. Et c'est vrai que c'est une des questions qu'on peut se poser. Moi, je suis pas là pour défendre Luca De Meo. Quand j'ai vu qu'il avait abandonné Renault d'une certaine façon au milieu du guet pour aller chez Kering pour un salaire trois fois plus élevé, j'ai écrit dans Challenge que c'était une attitude de mercenaire. Mais si vous voulez, cette capacité qu'ont des hommes à avoir effectivement un appât du gain, dire Challenge ne la défendra pas. Par contre, ce qu'on va défendre, c'est effectivement une économie qui a besoin d'entrepreneurs et qu'on ne doit pas surtaxer, qu'on doit surtout pas être les seuls à taxer.
Voilà, alors Vincent Beaufils, toute la question est de savoir effectivement si cette taxe Zucman passait, est-ce que les riches prendraient la route de l'exil fiscal ? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, si on taxait plus les ultra-riches comme vous semblez la CGT le désirer, est-ce qu'il y aurait une fuite des capitaux ?
Il est vrai qu'il y a eu une étude du Cercle d'analyse économique qui vient d'être donnée au Premier ministre en fin de semaine dernière, qui tente à prouver qu'on surestime généralement la réaction des riches par rapport à des taxations élevées.
Vous faites plaisir à Thomas Vacheron, là.
Interlocuteur. Hein ? Mais je voudrais dire que ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'une fois de plus, la France soit considérée comme le phare de l'humanité en matière de taxation. Pourquoi est-ce que cette taxation n'existe nulle part alors que nous sommes déjà le pays le plus taxé ? Okay. Moi, ça m'inquiète qu'on soit les
pionniers là-dedans.
Donc, comme justement c'est extrêmement important de factualiser les éléments, aujourd'hui on sait qu'en mettant la taxe Zucman, pour que tout le monde comprenne, 1800 personnes, ça rapporterait en gros entre 15 et 20 milliards d'euros. La moitié de ce que veut faire comme austérité M. Bayrou. Donc, il y a une possibilité de trouver de l'argent sur les ultra-riches. Ça ne produirait pas des effets qu'on entend tous les jours à la télé qui feraient que les très très riches partiraient. Non, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a plein d'autres éléments, il y a plein d'autres possibilités d'ailleurs pour garder. Et de l'autre côté, au-delà de vouloir taxer les riches, et ça serait normal en fait, parce que quelqu'un qui est riche aujourd'hui paye moins d'impôts que quelqu'un qui est pauvre. Aujourd'hui, l'impôt le plus injuste, c'est la TVA. Ça représente près de la moitié du budget de l'État, et c'est celle-là qu'on veut augmenter. Par exemple, sur notre facture d'électricité, qui est passée cet été de 5,5 à 20%, et aujourd'hui, je note qu'il y a une grève des énergéticiens pour faire diminuer la facture de tout le monde.
demandent. Mais surtout, ce que demandent les gens, c'est de vivre mieux de leur salaire. Et donc, ce qu'on demande, c'est qu'au-delà de l'impôt, c'est d'augmenter les salaires.
On parle de fiscalité pour l'instant. Donc, tout le monde est d'accord pour augmenter les salaires, moi le premier.
Oui, oui, d'accord.
Y compris le mien, d'ailleurs. Bon, mais la fiscalité...
Le salaire moyen en France, monsieur,
c'est
2200 euros. Votre salaire, il doit être éloigné de celui-ci.
Mais pas d'attaque personnelle. Même les
vous parlez du vote.
Les économistes qui sont partisans de la taxe Zucman n'imaginent pas qu'on puisse avoir 15 milliards par an. Dire, moi, j'ai vu Patrick Artus, par exemple, qui dit qu'on aura peut-être 5, 7 milliards, que la manière dont elle est présentée est extrêmement optimiste. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut imaginer une forme de taxation des riches. Moi, je préférais qu'on réfléchisse plutôt
vous,
à la taxe
Thomas
de la succession, qu'on réfléchisse à l'impôt sur les successions, qui me semble être beaucoup plus juste. Mais en tout cas, ce n'est pas la taxation des riches qui va résoudre le problème du budget.
Dans le budget, il y a plusieurs éléments comme la taxe Zucman qui permettrait. Il y a aussi la remise en place de l'ISF. L'ISF, ça correspondrait à plus que les deux jours fériés qui veulent nous voler. Donc il y a des possibilités. Et par ailleurs, il y a les aides publiques aux entreprises privées. Aujourd'hui, il y a un rapport du Sénat, 211 milliards d'euros, 6 600 euros.
Le temps est passé.
On est le pays d'Europe où il y a le plus de milliardaires et il y a le pays où il y a
Vincent,
plus d'inégalités.
Vincent, je suis obligé de rendre l'antenne. Vincent Beaufils, merci infiniment.
Je suis ravi qu'on soit le pays où il y a le plus de milliardaires. J'en profite pour le dire.
Je suis pas ravi.
Merci à tous les deux. Et tout de suite, c'est le 20h de BFM avec Alice Darfeuille.